on the feeling of our sweetest harmony.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 19 juin 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le magazine d'analyse sportive que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Et sur Paris Première, c'est con, là également, bah, il remonte le temps, mais à l'envers et tout, à 23h, Super Vixens.
Remonte le temps à l'envers. Comment
oui,
on peut remonter le temps à l'envers?
Mais oui, parce qu'on avait Mega Vixen cette semaine, là.
Ah, merde,
et là, Mega Vixen, c'est celui qui est juste après Super Vixen.
D'accord, donc bah, il remonte le temps tout court, bah, pas à l'envers. Parce que s'il remonte à l'envers, c'est-à-dire qu'il va dans le futur.
Oh là là.
Oh là là.
Avec ce Super Vixen.
Non, surtout,
ne
fais pas ça.
Non, surtout. Et voilà. Ça a sauté, je le savais, il fallait pas remonter à l'envers.
Présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Page et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous, quelle merveilleuse ambiance aujourd'hui. Ça fait plaisir d'avoir une telle équipe de winners et c'est absolument fabuleux. Oui, non, mais je vous vois, vous faites la gueule, mais je vous rassure, hein, il y a une émission à passer, là, et ça va aller beaucoup mieux, donc pas de soucis.
Ah non, c'est la seule ambiance, là.
Bon, de suite, les gros mots. Non, pas tant que ça.
Ça marche plus.
Ouais, j'ai surtout ton téléphone qui fait un sale bruit. Allez, la musique, elle me l'énerve. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, ça va être quelque chose un peu calme. On va essayer d'éviter de parler de sport. Quoique, il y a le Fantasy Mondial tout à l'heure. Mais néanmoins, on ne va pas passer que ça. Il y aura quelque chose d'un peu plus joyeux et tout ça. Un petit peu plus latin aussi, pour vous remettre un petit peu de baume au cœur. Ambiance.
En mi tierra mexicana.
Dans la terre mexicaine, la 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 la. Pardon, excusez-moi, du sport.
Oui, bonjour.
Bonjour, vas-tu bien?
Ça va.
Hormis?
De quoi?
Bon, d'accord. Je crois que tu commences par.
Non, non, moi j'ai eu les boules parce que jeudi soir, je voulais voir Lie to Me, j'avais pas Lie to Me.
Ah, alors, ben ouais.
Les grosses bollocks, tu vois.
Ah oui.
Maison à vendre à la place.
Ah non, c'est juste trop.
Émission de merde.
Ah oui, alors que ça allait être bien, Lie to Me. Bon, je plains quand même mes voisins qui ont voulu absolument nous faire partager leur joie du sport fenêtre grande ouverte. J'ai fait un barbecue.
Ah
j'ai
bah,
profité
oui.
pour brûler quelques feuilles.
Ah oui, avec en plus la pluie, ça donne un peu plus de fumée.
Voilà. Je peux te dire qu'au deuxième but, j'ai hésité à sortir ma sono.
Aïe.
Les hémorroïdes. Allons-y. Tu commences par du comic box, je crois.
Ah bah oui, d'accord, ok. Ouais, ok.
Direct, ça plaisante pas.
D'accord, comic box numéro 65. Avec, comme d'habitude, les BD inédites, dont une qui m'a pas tellement plu. C'est plus l'histoire qui m'a pas tellement plu. J'ai eu du mal à m'y mettre. Hein. C'est celle qui concerne Hulk, qui en fait revisite un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire World War, hein, ce fameux arc Hulk qui revient sur Terre parce que bon, on l'a emmerdé, on a tué sa princesse, lui qui avait été exilé, je veux pas vous re-raconter, ressasser toujours la même chose, et ça raconte un petit peu la part prépondérante qu'a pris Hulk lors de cette fameuse invasion des Skrulls, et j'y reviens toujours aux Skrulls.
Non, non.
Donc, alors le seul truc qui m'a bien botté en fait, c'est le graphisme, parce que en fait, c'est peint. C'est de la peinture.
Tu bottes en touche là. Tu bottes en touche pour ne pas.
C'est peint, c'est pas dessiné. Après, bon, ben, au niveau de la palette.
C'est Gabriele Delotto.
Non. C'est comment il s'appelle Lucio Parillo. Ouais, c'est pareil. C'est un mexicain aussi.
Non.
S'il vous plaît.
Et j'ai plus de micro là. Sérieux. Je crois.
Non. C'est qu'il était beaucoup trop fort, c'est tout.
Ah ok, d'accord.
Voilà. Là, oui, non, plus. Ça a été réglé par des pieds. Tu sais ce que c'est ici.
Et donc une deuxième BD qui concerne Captain America par Ed Brubaker et Brian Hitch. Captain America Renaissance. Mais ce qui est vachement con. Enfin, ils avaient déjà fait le coup avec Icass d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire qu'ils avaient mis les premières pages dans le comic box et puis après, suivre. Faut que t'achètes le bouquin pour avoir la suite. Et là, en fait, ça raconte carrément. L'histoire de Captain America au début, c'est-à-dire que là, au départ, il est en train de débarquer sur les plages de Normandie, mon gars.
Donc ils ont fait un reboot, mais un petit peu plus tard, parce que je crois que le Captain America d'origine date de 42. Donc là, du coup, ils l'ont fait manière private.
Ouais, mais enfin bon, des plages de Normandie, on va tout de suite à la mort, c'est-à-dire à la fin de Civil War, c'est-à-dire à la mort de Captain America, et on apprend plus ou moins qui a vraiment descendu Captain America.
C'est lié à Harvey Oswald.
Hein ?
C'est Oswald ?
Non, parce qu'il y a plusieurs balles.
Ah ben oui.
Oswald, la balle était magique.
Oui. Ok. Sinon, alors, ce qu'il y a de vraiment bien, alors, c'est l'interview de Darick Robertson, qu'on ne présente plus.
Ah ben ouais.
Et Darick Robertson qui nous raconte pas mal de choses. Alors vraiment sympa Darick Robertson que je vous présente plus parce que c'est le mec qui dessine The Boys, mais il a aussi fait avec le même Garth Ennis Transmétropolitan et également Wolverine pour lequel il n'a pas travaillé longtemps. Mais enfin bon, ce qu'il dit c'est vachement intéressant. En fait, il dit que quand il a pris les commandes, c'est-à-dire quand Marvel lui a dit ok vas-y tu vas nous faire Wolverine et tout, et lui il s'est dit ok quoi, je vais faire le vrai Wolverine. Burnet, tout avec les canons Marvel, hein, c'est-à-dire Wolverine, à l'image un petit peu de l'animal, c'est assez petit, court sur pattes, 1m60, trapu, buriné un petit peu, quoi. Le mec, il a 100 ans d'âge, le mec, il picole, il fume le cigare, il a tout le temps le cigare au bec, et comme lui, il prenait le run de Wolverine en même temps que la sortie de X-Men, le film X-Men 2, et que Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine était devenu vraiment le héros, l'icône, on va dire, et que Hugh Jackman, c'est pas un mec qui fait 1m60, mais plutôt près des 1m90, qu'il est plutôt bien foutu, qu'il a une bonne gueule et tout. Marvel a voulu que son Wolverine corresponde au Wolverine qui était en vogue à l'époque. C'est-à-dire, tu vires les trucs qu'il a dans la bouche et puis qu'il fume parce que ça le fait pas trop pour les gamins, alors que généralement, Wolverine et tout, c'est pas trop pour les gamins, on va dire, hein. C'est quand même déjà un petit peu pour les ados, hein. Mais bon, ok, donc il s'est assez vite viré. On apprend également que il a été pressenti pour faire Spider-Man et qu'il refuse Spider-Man parce qu'il avait un autre projet en même temps qui lui tenait un petit peu plus à cœur. Moi, ce que j'ai appris aussi, tout bêtement, c'est qu'il est pas anglais. Moi, j'aurais pu le croire, mais non, il est américain de la côte ouest.
Ah, déception.
Ouais, non, mais bon, vu le graphisme qu'il y a dans The Boys, on pourrait se dire, c'est plus un graphisme à l'européenne, on va dire. Hein, c'est pas tellement le trait graphique qu'on a l'habitude de voir par les auteurs maison entre guillemets qui nous font du comics avec les super-héros traditionnels. Mais il collabore vachement bien donc avec Garth Ennis pour The Boys. On apprend surtout que The Boys, on n'en a pas fini. Hein, parce que au total, il va y avoir 70 numéros. Mais alors 70 numéros, c'est-à-dire les petits fascicules. On sait que un tome qu'on a là, on en est au tome 6. Il y en a 4 voire 5 par tome. Vous faites le calcul pour aller jusqu'à 70. On n'est même pas à la moitié. Donc il y en aura environ près d'une quinzaine. Hein, j'ai calculé. C'est pas mal.
Ça laisse durer de pas mal de saloperies encore.
Oui. Et cerise sur le gâteau, une adaptation cinéma est prévue.
Mais c'est pas possible.
On demande à voir. On demande à voir.
C'est pas possible de transcrire ça au cinéma où il faut que ce soit interdit au moins de 20.
On verra. On verra. Hein, de toute façon, quoi.
Ouais, mais Kikas, il n'y a pas la dimension sexuelle dedans. Alors
non,
que,
non, il n'y a pas.
C'est vachement grave bleu quand même.
Oui, là, c'est quand même vachement grave bleu. Hein. Ils vont quand même vachement loin, quoi, il faut dire.
Tome 2, quand il y a le super-héros qui se sacrifie pour sauver la Terre et qui va niquer une météorite.
Oui.
Enfin, dans le sens littéral. Hein.
Ouais. Oui, oui, oui. Non, mais bon, ok.
Et, hein. Et qu'après, on le retrouve avec un hamster.
Voilà.
Ouais, bon. Non, c'est pas un hamster.
Si.
Non, c'est un rat.
Oui, c'est un rongeur en tout cas.
Ouais, enfin bon,
un rat.
C'est un truc poilu et
non.
Au diamètre un petit peu
gros. Restons dans les perversions sexuelles connues. Là, le hamster, tu m'apprends quelque chose là. Le rat, je connais, mais le hamster, non. Ok, à part Darick Robinson, il y a également Cameron Stewart, Phil Jimenez, Dave Gibbons, mais pour une petite interview, hein, parce que Dave Gibbons, en fait, il raconte surtout que ça fait un an, pendant un an, il a fait rien d'autre pratiquement que la promotion de Watchmen.
c'est con.
S'il est payé pour, écoute.
Ouais, bah oui, forcément quoi. Et après, bon, ben les rubriques habituelles, donc avec un super dossier sur le FBI et les comics. Alors ça c'est pas mal, hein, ça c'est de l'histoire. Il y a aussi un autre dossier sur un super méchant qu'on connaît vachement bien, Docteur Fatalis. Qu'est-ce qu'il devient, comment est-ce qu'on l'utilise, comment il a été utilisé, enfin l'historique un petit peu de Fatalis.
Il est devenu consultant.
Ouais. Et tout ça donc avec en plus un gros dossier sur les New Ultimates. Bon, je vous en ai pas parlé parce que je suis pas tellement dans les Ultimates. J'ai acheté le nouveau Ultimates, le numéro 1 de Spider-Man. Bon, c'est vrai que c'est assez rigolo, ça dépote un petit peu. Mais enfin bon, hein, je préfère quand même me cantonner aux héros un petit peu plus classiques, un petit peu plus traditionnels. Voilà, donc c'est le Comic Box numéro 65, comme d'habitude, hein, c'est excellent, il n'y a pas de problème. Bon, ça s'adresse quand même à des gens qui sont vraiment férus de ce genre de trucs, parce qu'ils vont fouiller vraiment très profond, c'est très documenté, il y a beaucoup de références au niveau des comics, les numéros, la date de parution, les histoires et tout, enfin bon bref quoi.
C'est même presque hermétique pour celui qui connaît pas trop.
Oui,
voilà,
complètement,
c'est ça.
Oui.
Ouais, c'est ça, hein, c'est, disons qu'il y a beaucoup de choses, bon bah ok, hein, il faut suivre. Mais comme c'est assez bien écrit, c'est même bien écrit moi je dirais, hein, bon bah ok, hein, c'est quand même... Ça se laisse lire. Tu veux que je continue ou
Oh non. Ouais, moi je vais entamer ma partie.
On le fait après quoi.
Oui. Et on va commencer avec Fabien Wellman et Bruno Gazzotti seul. Le cinquième tome donc est arrivé, la fin du premier cycle. Au cœur du Maelstrom, c'est chez Dupuis et il faut peut-être rappeler un petit peu le principe de cette série qui est vraiment exceptionnelle. Un matin, tout le monde disparaît. C'est ainsi que se réveillent quelques enfants. Pour une raison inconnue, ils sont désormais seuls au monde. Malgré leurs angoisses, ils vont devoir prendre leurs responsabilités et essayer de comprendre où tout le monde est parti. Depuis, cet univers est devenu un cauchemar. Un tueur au couteau, le clan du requin, la noirceur de l'âme humaine n'attend pas que les enfants deviennent adultes pour déteindre sur eux. Sur les animaux aussi, car les singes se sont mis à construire d'inquiétants caïens, comme s'ils voulaient interdire une région d'accès. Doji meurt à la fin du quatrième tome. Le groupe est désormais sous la responsabilité désignée d'Ivan, lequel a du mal à accepter d'être le chef de ce petit monde, et il sent bien qu'il n'a pas les épaules assez larges pour trouver de bonnes solutions en cas d'une agression extérieure. Au terme d'une élection, c'est Leila qui prend donc la tête, qui est bien décidée à trouver le meurtrier de Doji. Se pourrait-il que l'assassin soit venu de la zone rouge? Et dans ce cas, qu'y a-t-il au milieu qui effraie tant les singes au point qu'ils en soient devenus mystiques? La tension est de plus en plus palpable au sein de ce groupe d'enfants. Les dangers extérieurs, la recherche d'un retour à la normalité, la recherche des rêves, la recréation d'une société civile ne suffisent plus à maintenir la cohésion de ces abandonnés. Le ton monte entre eux, la douzaine de compagnons du sort est une douzaine d'occasions d'être en désaccord. On reste le souffle coupé par la suite des événements, le graphisme faussement gentil de Gazzotti, qui rendait l'histoire de Soda encore plus noire, aide clairement à faire monter la tension. Les hommages se multiplient, de Sa Majesté les Mouches, avec un rapprochement graphique pour ceux qui l'avaient pas vu venir, à 2001. La fin du premier cycle apporte bien des réponses, et certaines sont tellement surprenantes qu'on se dit qu'il va avoir de quoi tenir encore les 10 albums promis. vivement prochain album qui initie le second cycle. Seul le tome 5 au cœur du Maelstrom, séché depuis, c'est toujours scénarisé par Fabien Vellman et dessiné par Bruno Gazzotti, et ça reste le coup de cœur, à mon sens, le truc qu'il ne faut absolument pas louper.
Juste un truc, maintenant que ça me frappe, parce que j'avais pas capté en fait la parenté avec un manga que j'avais lu qui s'appelle L'école emportée.
Oui.
Et là, avec les pages que je feuillette, c'est d'autant plus, c'est d'autant plus flagrant. Je trouve. Enfin, il faudrait.
Ouais, mais L'école emportée, il y a que l'école. Tout le reste est complètement étranger. Tandis que là, ils sont dans la ville. Ils sont juste seuls, quoi, abandonnés des adultes. Oui. Et justement, sans la cohésion sociale d'une école. Puisque c'était ça, quand même, justement, le principe quand même de ce manga.
Et là, on voit pas le retour avec le reste des gens, alors que dans L'école emportée, on voyait la mère qui essayait d'entrer en contact avec son fils et tout.
J'ai jamais vu, là, tu es en train de... Spoiler! Fred Duval et Jean-Pierre Pecot au scénario, le dessin de Gaël Séjourné, jour J, le numéro 2 de cette série de one-shot s'appelle Paris, secteur soviétique. C'est toujours dans la collection série B chez Delcourt, et ça reste toujours le principe du nuque, c'est-à-dire d'un événement spécifique qui permet à l'histoire de changer, et on voit un peu plus loin comment évolue cette histoire, et ça reste, je vais dire, le principe de l'histoire de base. Alors autant le premier tome de cette série consacré à la conquête spatiale était bien amené, à une exception près sans trop d'erreurs, là, j'avoue, j'ai pas mal tiqué. L'idée était que les circonstances du débarquement en Normandie ont viré à cause d'une météo particulièrement mauvaise, tandis que le général de Gaulle meurt lors d'un trajet en avion. L'Allemagne est finalement vaincue, mais principalement par les forces terrestres soviétiques. Au lieu que l'Allemagne et l'Autriche soient découpées entre les alliés, c'est par la France que passe le rideau de fer. L'histoire se déroule donc 4 ans après la fin de l'Allemagne nazie en 1951. La France est une république populaire sur la rive droite de la Seine et une république dominion des États-Unis pour le reste. Un policier français du bloc de l'Ouest est envoyé enquêter à Montmartre, donc côté soviétique, sur les meurtres de prostituées, ce qui s'avérera très vite être le forfait d'un tueur en série, voire d'un Jacques l'Éventreur. Sauf que le capitaine Saint-Elme a été choisi par les autorités américaines, aussi parce qu'il est le chef officieux d'un réseau d'espionnage infiltré chez les Ruskov. Et sa mission diplomatique d'enquête pourrait bien virer à n'importe quoi s'il décide d'en profiter pour sauver la vie de ses propres agents. Certains détails sont tout à fait historiques et véridiques. Quand les Américains soutenaient Darlan, qui est quand même un ex-pétainiste et ex-chef des armées à Vichy, et méprisaient de Gaulle, ils avaient commencé à tirer des billets de francs qui ressemblaient largement à leurs dollars. Mais ce mélange entre les personnages issus des films d'Audiard, les écrivains politiques de la Libération, cela réussit finalement très moyennement. D'autres situations politiques me semblent aussi franchement trop capillotractées. Bref, il y avait moyen de faire quelque chose de très fort en transposant les romans d'espionnage du Berlin occupé à Paris, mais le résultat semble avoir été de trop vouloir tasser dans les 56 pages de l'album. Certaines perspectives de cette uchronie semblent carrément être passées à l'as, et c'est bien dommage. Jour J, le deuxième tome s'appelle Paris, secteur soviétique, et je rappelle que c'est un one-shot, c'est-à-dire que c'est lisible de manière totalement indépendante. Scénarisé par Fred Duval et Jean-Pierre Pecot, et dessiné par Gaël Séjourné, et c'est dans la collection série B chez Delcourt. Et sauf erreur, c'est un dessinateur de SF très connu d'ailleurs qui fait à chaque fois les couvertures. Ce qui amène bien, mais quand même...
Me saca de mi burbuja de sueños, le pongo empeño, sin miedo a no ponerme moños, yo le enseño que esta la experiencia el 90% y no el pequeño de antes. Me extendí para adelante, pero este piloto devoto que exploto a los 14 no los quitan del volante. Sí. HP Tiguan, 11MC, así lo sé y lo sabes, así lo hacemos para que no te trabes. Con técnica, con flow nos deslizamos por los cables.
Inalcanzables, por algo no necesitamos hablarnos en clave.
Joder con nosotros no es rentable, defines nuestro estilo y mencionas formidable.
Fumi Yoshinaga, on va passer à complètement autre chose, mais on est toujours dans le principe de l'Uchronie, à savoir le Pavillon des Hommes, le quatrième tome de cette excellente série est sorti dans la collection Big Kana, éditeur de mangas, où on revient sur la variole du Tengu qui continue à décimer les hommes. Il reste plus qu'un homme pour quatre femmes en moyenne, et qui continue de bouleverser la société médiévale japonaise. Désormais, les métiers de la terre et de l'industrie sont en proie à une révolution culturelle. Les outils et les méthodes de production sont adaptés pour les femmes, ce qui permet de faire sortir le Japon de la famine. Les chefs de famille sont presque toutes des femmes, mais continuent à porter le nom de leurs défunts parents pour donner le change. Ça reste toujours, je rappelle quand même, une société féodale extrêmement codifiée. Et il faut prévoir la succession par sa fille de la shogun. Ce qui veut dire à la fois éviter que les familles ennemies arrivent à monter une coalition, que des ronins ne montent de bandes trop importantes qui arriveraient à renverser une armée en majorité féminine. Bref, il y a du boulot. Iemitsu, amant secret de la shogun et père de la prétendante au pouvoir, devient intendant du pavillon des hommes. Afin de mettre fin au luxe indécent de cet androssé, une partie des hommes est envoyée dans les quartiers de plaisir afin d'aider à calmer les menaces de soulèvement. Mais autant la chef actuelle du gouvernement est une femme à poigne, autant sa fille de 12 ans se montre absolument pas préoccupée par les affaires. Après la mort de sa mère, et même si elle est censée gouverner l'empire japonais, elle préfère plus s'intéresser au théâtre et à la littérature sentimentale. Le Japon est à nouveau en grand danger politique. Le Pavillon des Hommes, le tome 4, est de Fumi Yoshinaga, et c'est dans la collection Big Kana Shikana, et pour moi ça reste une lecture à découvrir pour cet été, parce que c'est vraiment d'abord très bien scénarisé, très bien dessiné, pas mal du tout point de vue traduction et point de vue initiation justement à une certaine époque, même si là c'est complètement changé et modifié. Oui, c'est tout ce que j'ai trouvé comme cœur féminin et tout. J'aurais pu passer à autre chose. On y va avec des mauvais garçons.
Seconda fase.
Takao Koyano, Angel Voice. Les deux premiers tomes sont sortis dans la collection d'Arcana Shikana, qui est une collection plutôt, je vais dire, adolescente. Et
c'est pour moi alors.
Et on découvre, oui, parce que tu vas voir, ça ressemble beaucoup à Slam Dunk. Le lycée de Shingo Narita a une mauvaise réputation. Son équipe de foot est squattée par une bande de mauvais garçons, ce qui attire tous les ados un peu turbulents à entrer dans ce lycée. Bref, le lycée est devenu un repère, je veux dire, de frappeurs et en dehors des règles. Devant le grave problème de réputation que pose cette équipe un peu... enfin pas du tout orthodoxe, le proviseur fait appel à un nouvel entraîneur. Alors là, de suite, on repense à Slam Dunk avec son entraîneur qui remet au basket des jeunes garçons turbulents, qui du coup s'entraîne dur parce que du coup ils sont motivés par le basket et il est d'un optimisme incroyable. Ah non, l'entraîneur est plus, je vais dire, dans la société établie, il est plus pet sec et tout le reste, bref voilà. Mais celui-ci va lancer un défi, a priori simple, à son équipe de foot. Vraiment jouer au foot et battre la sélection nationale de la Fédération Française.
Il va se faire enculer, pauvre merde.
Shingo va-t-il châtier son langage à l'image de Nicolas Anelka? William Gallas peut-il faire mieux avec son majeur? Johan Gourcuff va-t-il encore se faire tabasser dans les toilettes? Et comment Raymond Domenech va-t-il démontrer au proviseur qu'il peut construire une équipe qui gagne? Pas l'astrologie?
Ouais, m'en fous, de toute façon c'est celui qui dit qui est.
Angel Voice, tome 1 et 2, de Takao Koyano, chez Darkana. Arrêtez de me regarder comme ça, ça fait peur.
Ah, c'est la seule ambiance, on avait dit.
D'accord, ok, bon, la musique adoucit les mœurs, donc il est 12h24, tant pis pour la pub, allez, une petite pause musicale, hein. Vous allez voir, c'est très bien. Tierra Mexicana featuring Arriba Juarez, Como quien pierde una estrella, qu'on pourrait traduire par Comme qui perdrait une étoile. Bon, c'était pour me moquer des footeux, mais je vois que franchement, quand on parle de foot, mais qui perdrait une étoile. Une étoile.
Oui,
tu
oui,
sais
oui,
ce maillot
de l'étoile au-dessus du coq, oui. Eh, va te enculer.
Lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero. Qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Por donde quiera, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Que me está matando allá, allá.
Le 24 juin 2010, les abattoirs de Toulouse fêtent leurs 10 ans avec Radio Éphémère. Une journée particulière, des émissions en direct, un plateau d'artistes, des animations, une soirée live musicale et projection vidéo. Les abattoirs fêtent leurs 10 ans. Un musée, un frac, une collection. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lesabattoirs.org.
Eh ben. Allez, aujourd'hui, alors pas du tout question de vuvuzela, de foot ou quoi que ce soit, et on parle de Summer Wars. Donc c'est un film d'animation qui fait presque une sortie technique hein, puisqu'il a été diffusé, il est diffusé à l'ABC à Toulouse. Et donc c'est un film.
Il a pas été déprogrammé, il a la chance de pas être israélien, c'est
oui.
ça
voilà.
Oui, parce que l'ABC fait partie du groupe Utopia Inc.
Non mais il dure quand même plus longtemps que My Name Is Khan, qui a tenu samedi dimanche.
Oh putain. Oui.
Oh putain, c'est pitoyable.
Ah ouais, mais non, mais de quoi tu
te... Et même pas les séances complètes.
Ah mais de quoi tu te plains, il a quand même été diffusé.
Ouais, d'accord. 4 fois.
C'est mieux que rien.
4 fois.
Alors Summer Wars est un film d'animation de Mamoru Hosoda à qui on devait déjà chroniquer sur cette antenne La Traversée du Temps. C'est un film produit par le studio Madhouse et caractère designé par Yoshiyuki Sadamoto qui est le caractère design de...
La Mu ?
Non. La série Evangelion.
Oh mince, c'est vrai.
Et qui avait déjà caractère designé
oh, punaise, c'est vrai, j'ai complètement
Traversée du Temps. Et alors, à l'approche des vacances d'été, le geek Kenji projette de bosser en tant que saisonnier sur l'administration de la communauté virtuelle Oz, le réseau social numéro 1 au monde. Sauf que ce réseau social est un peu particulier, puisqu'en fait, tu peux tout faire avec. C'est-à-dire que si tu as un compte sur Internet, c'est sur Oz. Et donc, les agents des forces publiques, des administrations diverses et variées, ils peuvent se loguer avec leur compte et tout. Donc, évidemment... grave problème de sécurité s'il y a une couille. La collègue lycéenne de Kenji, Natsuki, lui demande de l'accompagner dans sa famille pour les 90 ans de son arrière-grand-mère, donc c'est dans la campagne, en se faisant, elle lui demande de se faire passer pour son petit ami, parce qu'elle avait dit à sa grand-mère, tu restes là, il faut que je prenne mon petit ami d'abord. Voilà. Alors évidemment, lui,
je crois que c'est sans le prévenir en plus.
Elle lui dit au dernier moment en fait, une fois qu'il est arrivé là-bas, donc lui devient tout rouge parce qu'évidemment c'est un puceau, c'est un gros qui joue que par l'informatique, voilà. Il vit tout seul à côté de son école parce que ses parents ils sont jamais là, etc. Et alors voilà, au même moment, l'intelligence artificielle Love Machine pirate plusieurs comptes sur Oz et propulse des infrastructures mondiales dans le chaos mondial.
Je suis en train de me marrer, mais excuse-moi, mais. Love Letter, c'était un virus qui a failli foutre à genoux pas mal de serveurs en 2002.
Ah ben voilà, Love Machine, voilà. Et alors c'est marrant parce que au début du film, tu vois que alors t'as déjà une intro sur Oz, alors c'est purement virtuel et tout. Tu te dis alors moi quand je suis allé voir le film, je ne savais absolument rien du film à part juste le réalisateur. Et alors tu entres dans le film, c'est vraiment la communauté virtuelle, un peu le monde du rêve à la Paprika, c'est-à-dire que tu entres dans l'onirisme pur et dur. Alors le
Lane.
Design...
Hein Lane.
Lane, ouais, mais c'est plus dark Lane, alors que Paprika c'était vraiment assez sucré et tout. Et là, c'est les avatars sont vraiment le talent des Japonais pour trouver des mascottes, donc c'est des petits animaux, voilà. C'est très coloré. Le design est très particulier, il faut s'y faire avec les cernes des personnages qui sont rouges ou des trucs comme ça. C'est assez jusqu'au boutiste, mais ça passe. Et après, tu te retrouves projeté dans vraiment la campagne ghiblienne au possible. C'est le gars Guy qui va se retrouver dans une famille complètement pas starbée mais avec des personnalités très très riches et très complémentaires et contrastées et voilà c'est il découvre la vie de famille nombreuse et tout. Alors tu dis tiens c'est bizarre, bon c'est juste pour illustrer le fait qu'il soit geek et puis qu'il aille là-bas et tout. Et finalement on est rappelé dans l'univers virtuel parce qu'avec la fameuse histoire du virus. Et alors en fait pendant tout le film c'est un parallèle entre le réseau social virtuel et le réseau effectivement physique familial de l'arrière-grand-mère qui au fur et à mesure du film on va s'apercevoir qu'elle a un bras long mais de 3 km. Et qu'elle connaît plus ou moins directement toutes les hautes fonctions du pays. Avec justement la famille aura une ramification diverse. Alors elle va contacter un grand-oncle ou un petit cousin qui connaît machin et tout. Et alors ça va être finalement quelque part un duel entre la progression du virus virtuellement et les efforts de cette famille pas comme les autres pour essayer de contrecarrer le virus. Donc c'est vrai que là, dit comme ça, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une famille à la campagne qui va essayer de combattre un virus mondial. A priori, soit tu fais un film sur le virtuel dans un univers à la Shiro ou à Moroshi, soit tu fais un truc vraiment pro-campagne, et puis oui, c'est bien les valeurs d'avant avec les grandes familles à la Miyazaki, mais en fait, le fait de s'associer les deux, c'est vraiment le truc particulier du film. Alors autant l'univers à la campagne, bon les Japonais sont très forts, c'est rendu un peu aquarellé. L'univers virtuel, c'est super. Enfin, les couleurs sont acidulées, sucrées et tout. Et alors, quand tu passes de l'un à l'autre, c'est assez déstabilisant. Et genre, je disais, les personnages sont super riches. Donc, Kenji, bon, il est. Bon, c'est le. Kenji, ouais, c'est l'archétype. Hein, c'est le. Voilà, le gars qui, dès qu'on le touche, il commence à rougir. Avec les gags, tu sais, quand il rougit, c'est plutôt rose. Et en fait, c'est une espèce de masque avec une démarcation assez, assez nette avec, qui va de bas en haut. Voilà. Natsuki, sa copine, enfin, sa collègue au départ, bon, elle est forte dans un. Apparemment, un jeu de cartes qui est encore plus compliqué à comprendre pour nous que le Mahjong ou les trucs comme ça. Et en fait, c'est un jeu de cartes qui est surtout pratiqué dans cette famille-là. Et alors, ça va être aussi l'un des tenants et aboutissants du film aussi, donc j'en dis pas plus. Et alors, chaque membre de la famille, en fait, est très particulier. Donc, t'as le fils illégitime qui a dilapidé la fortune de la famille et qui était allé faire fortune aux États-Unis, après qui revient exprès pour l'anniversaire de la grand-mère, mais il veut pas trop l'avouer parce qu'il fait juste le rebelle, mais on s'aperçoit qu'il est vachement attaché à la grand-mère. Et il est peut-être pas étranger au fait qu'il y ait le virus qui soit apparu. Donc évidemment, on s'aperçoit que la virtualité du film, en fait, c'est juste une métaphore de la famille, en fait. Donc c'est ça qui, dès que t'as compris ça, ça va, ça passe. Mais c'est vrai qu'au départ, quand tu dis virtuel et la famille, tu dis, mais qu'est-ce que, ça en dirait deux films en un. Et une fois que t'as compris que l'un est la métaphore de l'autre, ça va. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans le virtuel, trouve un écho dans le réel et vice versa. C'est-à-dire que chaque personnage de la famille a aussi un avatar dans le monde de la communauté virtuelle, du réseau social, et chacun va avoir un rôle prédéfini. C'est-à-dire qu'il y a un petit gamin aussi dans la famille qui fait plutôt le gars un peu replié sur lui-même. On s'aperçoit que c'est juste un demi-dieu dans l'informatique parce que le gars, il est devenu pro des combats d'arts martiaux sur le net, il est super respecté, alors que dans la famille, il est juste invisible. Alors voilà, c'est le pendant, c'est comme un jeu de miroir, et c'est ça qui est intéressant. Le seul bémol, parce que c'est bien de chipoter toujours, hein, c'est la fin qui est un peu attendue, et ils y vont à fond au niveau bon sentiment, les larmes et tout. Bon, il se passe beaucoup de choses dans le film, et à la fin, tu vois trop gros comme une maison, et puis bon, voilà, t'attends un peu que la fin se finisse, et qu'on passe un peu à autre chose. Mais sinon, le film est une vraie réussite, c'est tout à fait singulier. Les Japonais nous prouvent qu'on peut faire autre chose que juste les films cybernétiques et les films de Miyazaki, parce que entre les films, un peu, tu enlèves les grands auteurs que sont Otomo, Satoshi Kon, Mamoru Oshii ou les films de Ghibli. Attends, on me parle en même temps de ce.
Il est en campagne électorale, il est en train de nous servir le café.
Merci.
Dans le studio.
Ouais, voilà.
Merci d'ailleurs.
Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez difficile d'exister en dehors de ces monstres. Et ce réalisateur, donc Mamoru Hosoda, nous prouve qu'on peut faire des univers différents. Et le film, il est pas exempt de défauts, mais il vaut d'être vu aussi pour la fraîcheur.
C'est aussi parce que il y avait tout l'univers. Faut rappeler quand même que la création au Japon, c'est des tout petits studios, hein, des studios comme Ghibli, c'est le plus grand, ils sont une centaine d'animateurs, les autres comme IG ou Gainax, ils sont pas plus de 40, et en général, pour justement ce genre de production qui était un petit peu expérimental, il y avait ce qu'on appelait l'OAV, qui était destiné exclusivement au marché de la vidéo, ça n'existe pratiquement plus, et du coup, justement, toutes ces créations-là sont en train de revenir, soit en guise de téléfilm pour la télé, soit directement au cinéma, et on a des choses de plus en plus expérimentales qui sont en train de remonter.
Oui, mais voilà, c'est bien de voir autre chose que les gros mastodontes, et comme je disais, on se croirait à un moment donné dans du Ghibli, mais en fait on n'y est pas vraiment, on se croirait dans Paprika, mais on n'y est pas vraiment non plus, et c'est vrai que y a quelques petites voix comme ça, tu vois comme Mamoru Hosoda avec déjà son précédent film La Traversée du Temps, c'était un film, une chronique également d'où sa mère sur une lycéenne qui voyageait dans le temps, mais c'était... Le film était aussi costaud au niveau de la chronique lycéenne que de l'aspect fantastique. Et là, c'est pareil, c'est aussi costaud au niveau virtuel que chronique familiale. Alors évidemment, il y a plein de péripéties, t'as pas vraiment le discours sur c'était mieux avant et tout, pas trop. C'est surtout...
Ça n'existe pas, hein, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs conservateurs qui font remonter ça, mais au Japon, ils ont une vision très shinto de mélange de modernité et de classicisme. Hein,
Ouais, enfin, après, il y a toujours le... C'est pas bien de faire la déforestation et tout, mais là, on n'est pas vraiment dans l'optique écolo. C'est surtout... c'est l'histoire d'un jeune qui est complètement isolé du monde et qui apprend à vivre avec les autres et tout, et puis voilà. Bon, voilà, c'est, le film est super frais, pas exemple de petits défauts, mais franchement, c'est vachement rafraîchissant. Tu sors de là, t'as un peu la banane, t'as pas l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs. Avec bon évidemment c'est les codes du film d'animation japonais donc bon voilà c'est le character designer d'Evangelion donc tu as un peu les mêmes visages et tout mais voilà franchement au niveau de la mise en scène la nervosité il y a aussi une dimension shonen parce qu'il y a des combats virtuels aussi qui sont qui feraient pâlir d'envie certains réalisateurs de combats. C'est vraiment bien. T'as une multitude de personnages qui sont super fouillés, super riches. Non, c'est vraiment un très bon film. Alors voilà, on rappelle la référence. Donc c'est Summer Wars. Moi, je connais juste le titre. Alors je pensais que c'était un truc un peu space opéra et tout. Enfin, pas du tout. Alors c'est voilà un film d'animation réalisé par Mamoru Hosoda et produit par le studio Madhouse qui est plutôt réputé pour faire pas mal de films avec des éléments 3D assez cash. Hein. On aime ou on déteste Madhouse. Là il y a aussi pas mal d'éléments 3D puisque pour tout ce qui est la virtualité c'est vraiment de la 3D avec un rendu cel shading, c'est-à-dire assez en aplat avec des contrastes d'ombre assez marqués. Et donc voilà, donc Summer Wars, on vous le conseille fortement, réalisé par Mamoru Hosoda, et était toujours à l'affiche.
Il est toujours à l'affiche, et apparemment, de ce que je vois à Toulouse, il est uniquement à l'ABC, sur la programmation, et uniquement deux dates par jour. Deux diffs par jour, une à 15h35, une à 21h55, un petit peu triste.
Mais c'est en VO.
Ouais, c'est toujours mieux. Radio FMR 12h40 et 59 secondes. Vous écoutez le supplément au week-end numéro point. Je l'avais pas sous la main, je pouvais à la bouche. Et avec du sport, on est dans une toute autre ambiance. Ah oui, c'est vrai. Alors vas-y.
C'est ce qui était prévu, non ?
Oui, tout à fait, pardon.
Ok. Alors. Attends, j'éteins.
Oui, tu peux la couper la vuvuzela.
Quoi, c'est, ça a rien à voir, c'est quoi ? C'est pas ça ? Ah non, non, pas trop.
Non, non, pas du tout. Pas du tout.
Non, pas du tout.
Alors, sorti en kiosque. Depuis pratiquement le début du mois, quoique j'ai quand même mis 15 jours à trouver un magasin où le trouver. Hein, bah oui. Enfin, on remarquera que quand même dans le domaine des comics vendus en kiosque, Marvel est nettement mieux distribué, on va dire, que les DC. Ça, il n'y a pas de problème.
Alors DC, c'est la même boîte derrière, mais je crois qu'il y a une légère préférence en ce moment éditoriale pour des raisons diplomatiques.
Ouais, non, mais bon, il n'y a pas que ça, hein, à mon avis. C'est que bon, ben, Marvel a plus le vent en poupe. Hein,
entre autres.
Hein, voilà. Hein, commercialement parlant, on va dire. Donc Batman, c'est Batman Universe, c'est le numéro 1. Pourquoi le numéro 1 ?
Numéro uno.
Parce que bien juste avant ce Batman numéro 1, bien Batman les aventures donc du Caped Crusader étaient couplées avec les aventures de Superman et ça s'appelait Superman et Batman. On les retrouve également dans DC Universe et dans DC Trinity où on retrouve Superman, Batman et Wonder Woman dans DC Trinity écrit par Marc Bagley et dessiné par Kurt Busiek, hein, toujours. Hein, et là, je peux vous dire que ça tient toujours la route. Et on s'était arrêté dans le dernier, dans le numéro 20 de Batman et Superman, à la fin de cette magnifique histoire de Grant Morrison, R.I.P., la fin du Chevalier Noir. Alors on se dit, bon, bah, ok, il va crever. Tout, et non, en fait, il crève pas. Il arrive bien à se débarrasser de cette fameuse organisation du Gant Noir chapeautée par le Docteur Hurt, hein, qui réunit tous les super criminels qui ont déjà eu maille à partir avec Batman, hein, c'est-à-dire les mieux, les plus connus, le Joker et tout, dans la version super trash telle qu'on a pu le voir dans le film Batman d'ailleurs, hein, c'est-à-dire bien, vraiment bien trash. Et quand on connaît Grant Morrison, on se dit, il n'y a pas de problème. On avait laissé Bruce Wayne complètement camé, enfin bon, qui se retransforme en Batman rouge, Azrael, je suis là, enfin bon, truc énorme,
c'est
énorme.
Quoi ce truc?
Ah ouais, ouais, non, mais c'est quoi ce truc? Justement, quand on lit, on se dit, Batman mais c'est rouge. Quoi ce truc?
Ils font du Hulk?
Et en fait,
Batman rouge.
Et en fait, eh bien, après s'être donc débarrassé du Dr. Hurt.
Je te rappelle sa première apparition en France, c'était sous le nom Les Ailes Rouges, et ils avaient coloré sa cape en rouge.
Ouais.
Misère.
Ouais, ouais, non, mais c'était pour ça d'ailleurs que Grant Morrison qui
c'était typiquement français hein,
remonte vraiment dans les origines et aime bien chercher la petite bête, les petits détails qui datent de vachement loin.
Cette couleur c'était typiquement pour la France. Ouais, ils avaient changé la couleur, je crois que c'était tout simplement parce qu'ils craignaient que le bleu sombre comme ça soit trop angoissant. Donc ils ont pris un rouge sang.
Et donc après ce Batman et Superman donc numéro 20 dans un DC Universe hors série. Eh bien, Batman découvre que Orion des New Gods s'est fait dégommer, donc il va chercher à venger Orion, hein, parce que bon, ça le fait pas. Et il va se retrouver confronté à qui ? À aussi un des grands super vilains de l'univers DC, à savoir Darkseid, hein, qui a eu maille à partir avec Superman, et bien entendu avec Batman. Et donc dans cet épisode qui s'appelle Final Crisis, qui est une histoire complète, et bien Batman arrive pratiquement à neutraliser Darkseid, mais Darkseid au dernier moment lui balance quand même des rayons Oméga, et Batman meurt. Mais heureusement, Superman chope Darkseid et arrive à le neutraliser. Quand même.
Superman est arrivé.
Avant la sortie de ce Batman Universe numéro 1, on se dit, ça y est, c'est fini, Bruce Wayne terminé, que dalle. Bon, d'un côté, on se dit, c'est un petit peu normal, ça pourrait arriver parce que Bruce Wayne, c'est quand même un mortel. Hein, c'est pas un super-héros, il est pas né de la planète Krypton ou.
Il est juste né de la cuisse de Jupiter parce qu'il est du fric.
Bon, ok, voilà. Hein, comment est-ce que ça commence ? Ce Batman Universe, ça commence par un double épisode histoire complète, on va dire, hein, écrite par Neil Gaiman, dessiné par Andy Kubert, qui s'appelle Whatever Happened to the Caped Crusader ? Qu'est-il arrivé au chevalier costumé ? Et c'est au départ une histoire dans laquelle, on voit les différents intervenants de l'histoire de Batman se rendre à son enterrement. Ok ?
Okay.
Et là, alors que ce soit ses partenaires, que ce soit les super vilains, on voit le Joker qui arrive et tout, enfin tout le monde. Puis ils racontent chacun leur version de l'histoire, comment ils ont connu Batman. Et je vous laisse deviner la fin parce que la fin avec Neil Gaiman, c'est quelque chose. Et ça part vraiment très très loin, même dans des limbes où on se dit y a des trucs qui se passent, c'est pas normal, y a un truc quelque part quand même. On se dit c'est le statu quo en fait à la fin de l'épisode, donc il reste peut-être une petite possibilité pour que Batman ne soit pas mort, mais on n'en sait rien du tout. Et l'épisode qui conclut, qui suit donc et qui fait le compte pour ce Batman Universe numéro 1, c'est la lutte pour la cape OPA ou Battle for the Cowl, Hostile Takeover. Et là, pas de Batman puisqu'il est mort, et donc c'est sous-fifre entre guillemets qui vont combattre le crime, parce que maintenant à Gotham tout le monde sait que Batman est mort, donc
open bar
allez on y va, font les manettes, c'est cool, il faut que les sous-fifres entre guillemets de Batman prennent le relais pour défendre
Batgirl, Robin,
Nightwing, c'est-à-dire le premier Robin, le deuxième Robin,
ah oui, t'es pas au courant toi.
T'es pas au courant. Et donc
si tu croyais que c'était simple.
Et donc on arrive à une petite histoire qui est assez sympa, surtout que sur la fin de l'épisode, on se rend compte qu'il y a un Batman qui revient et qui dit je vais être avec vous, je vais combattre le crime et tout. Puis les autres ils disent non mais t'es pas le vrai Batman est mort et tout. Enfin bref, c'est assez sympa quoi, ça laisse augurer de bonnes histoires pour la suite.
Et tout ce que t'as dit là, l'enterrement de Batman et tout ça, c'est compris là-dedans ?
L'enterrement de Batman, donc c'est la partie c'est l'histoire, c'est l'enterrement de Batman en fait, qui est scénarisé par Gaiman et dessiné par Kubert. Après, c'est Battle for the Cow, et là c'est dessiné et scénarisé par Tony Daniel, qui nous avait déjà fait pas mal de Batman d'ailleurs dans le temps. Et là, ça concerne uniquement Robin, Nightwing et tous les autres. Avec, à un moment, un type qui se ramène et puis qui, il n'y a pas de problème. on dirait Batman, quoi. Il y a pas de problème, quoi.
Ah oui, il y a l'air de ressemblance.
Il y a un air de ressemblance. mais bon, ok. Hein. Les autres sont pas dupes pour le moment, quoi. À la fin de l'épisode, ils disent non, c'est quand même pas lui, quoi. Il y a pas de problème. Donc, ça c'est à suivre. Il hein, y a pas de problème. C'est Batman.
Il y a moi.
Batman
moi.
Universe numéro 1, c'est en kiosque. Hein, c'est un DC Comics, bien entendu, et c'est chez Panini Comics.
Belle couve, en tout cas, qui fait vraiment penser à l'époque des. À l'époque bénie, je veux dire, les années 80.
Hein. Couverture de Andy Couvert. Hein. Oui, il fait les dessins, il fait la couverture. Il n'y a pas de problème. Hein.
Ça rock. Avant que je relâche les mariachis, je crois que toi, tu voulais passer à quelque chose d'un petit peu plus rock. Je vais lui confisquer sa trompette.
Non, mais quand il y en a une, ça va. C'est quand il y en a plusieurs
qu'il y a des problèmes.
Ah, déjà faite celle-là. h 50 supplément au week-end et on va passer à du livre sans images dedans.
Si, il y a quand même des images. D'accord, des photos.
December 20. La 3. Ah,
ouais. Ok. Ouais, plutôt. Vous avez certainement reconnu, c'est un morceau qu'on passe pas relativement souvent, mais enfin, je passe ce morceau, il passe également, il est déjà passé, je crois, dans l'émission de Metal de Bruce, et Olivier, spécial dédicace de Hop Hop Hop, qui le passe également, parce que lui, il aime bien Nikki Sixx. Nikki Sixx, qui a sorti un livre qui s'appelle Heroin Diaries, les journaux de l'héroïne. En fait,
journal intime de l'héroïne.
Journal intime de l'héroïne. Alors, en fait, ce bouquin est la retranscription de son journal intime, un journal intime qu'il a toujours tenu depuis relativement longtemps, quoi. C'est-à-dire depuis pas sa prime jeunesse, mais enfin depuis qu'il est en âge d'écrire et qu'il a décidé. Nikki Sixx, bon, pour le présenter brièvement, c'est la tête pensante de Motley Crue. Motley Crue, groupe de métal qui a connu son heure de gloire. Dans les années 80, au milieu des années 80, c'était le groupe de métal le plus connu, qui vendait le plus de disques, qui foutait le why absolument partout où il passait, qui avait été reconnu au début des années 80. On se rappelle que...
avec une sacrée ligne mélodique, technique, qui était impeccable.
Ouais, alors c'est le groupe, il décrit lui-même ce groupe comme étant un mélange entre du glam, du punk et du pop. Donc bon, voilà, vous avez un petit peu... le mélange, ça se retrouve d'ailleurs quand il cite ses groupes préférés, sa playlist préférée du moment et trucs comme ça, hein, avec des vieux trucs, Aerosmith en tête, il y a également Sweet, alors bon, on se demande, mais enfin bon, il a aussi un petit peu raison, on va dire, hein.
Ouais,
et d'autres trucs, Iggy et les Stooges, Alice Cooper, enfin des trucs comme ça, la musique avec laquelle il a grandi quand il était plus jeune, Nikki Sixx, bassiste du groupe, donc est la tête pensante de ce groupe car c'est lui qui écrit tous les morceaux, musique et paroles, et après les autres ils font que interpréter les machins. Vince Neil étant le chanteur, spécialiste des grosses bagnoles, et d'ailleurs qui a eu un accident mortel, qui a tué quelqu'un en voiture, ça a fait de gros bruit, ça a failli casser le groupe dans les années 80. Il y a Mick Mars à la batterie, et surtout celui qu'on connaît le plus dans Motley Crue, c'est Tommy Lee, le batteur, car c'est le mec qui s'est quand même maqué avec Pamela Anderson, qui lui a fait un gamin, voire deux gamins, les deux gosses de Pamela Anderson, c'est les gosses du batteur de Motley Crue, Tommy Lee. Donc là, il s'agit du bouquin de Nikki Sixx, de son journal intime, donc, qui commence le jour de Noël 86 et qui se termine le jour de Noël 87. Donc pratiquement 2 ans, jour pour jour, où, eh bien, chaque jour.
C'est une année, ça. De 86
oui,
à 87.
Oui, ça fait un an, ouais, t'as raison. Jour pour jour, hein, où, il prend chaque fois son bouquin, chaque fois qu'il a plus ou moins rien à foutre, quoi. Il se dit, ok, je note quelques mots et tout. Alors, selon les jours et selon son état, il peut pondre un pavé d'environ, 30-40 lignes, comme il peut simplement marquer 2 lignes ou 1 ligne dans la journée. Ouais, ce soir, on a fait un super concert, c'était cool, c'était magnifique. Alors, ce qui est pas mal, c'est que l'introduction, déjà, l'intro, c'est d'Alice Cooper. Alice Cooper qui dit, là je vais essayer de traduire simultanément, j'ai jamais pensé que Nikki Sixx pourrait vivre plus longtemps que le 3e album de Motley Crue. Les gens comme moi, Bowie et Elton John, on était des abuseurs professionnels, abuseurs de drogue bien entendu, mais Nikki est allé encore plus loin que nous. Hein, lui, il utilisait les seringues alors que nous, on n'a jamais osé le faire, en parlant toujours d'Elton John et de Bowie ainsi que de lui-même, Alice Cooper. Je connaissais Jim Morrison assez bien et Nikki me rappelait beaucoup Jim Morrison, et quand Jim Morrison est mort à l'âge de 27 ans, on n'était pas trop étonné parce qu'il était mort, on était juste étonné qu'il soit allé aussi loin. Choc that he got that far in the first place, qu'il était allé aussi loin, qu'il avait vécu aussi vieux. Hein, et donc il pensait exactement la même chose de Nikki Sixx. Ensuite, ça continue par un petit dictionnaire médical.
En fait, c'est un bouquin qui est en anglais, c'est ça?
Oui, c'est en anglais, il n'y a pas de traduction française, hein, et je crois pas que la traduction française est prévue. Et donc après, il y a un truc qui s'appelle Short Medical Dictionary, et dont les définitions ont été piquées dans Wikipédia. Alors à propos de l'addiction, l'alcoolisme, la cocaïne, la dépression, l'héroïne et la psychose. Donc les sujets principaux qui sont évoqués dans ce bouquin. Alors au départ, on a donc les termes très techniques, hein, c'est-à-dire cocaïne. La cocaïne, c'est un alcaloïde cristallin qui est obtenu à partir les feuilles de la coca et tout. Et quand on tourne la page, c'est ça qui est assez rigolo, hein, c'est qu'on a un short alternative medical dictionary, courtesy of Dr. Lemuel Pillmeister, qui est en fait Lemmy Kilmister, à savoir le mec de
Motorhead.
Oui. Ok, alors lui, ça se pissait dessus de rire et tout. Par exemple, l'alcoolisme, c'est une habitude qui vous aide à voir des iguanes dans le trou des yeux. L'héroïne, c'est une drogue qui vous aide à vous échapper de la réalité, while making it much harder to cope when you are recaptured. Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ou alors on a également la psychose, when everybody turns into tiny dolls and they have needles in their mouth and they hate you and you don't care because you have the knife. Et puis après enfin voilà, ça c'est du Lemmy pur jus. Et puis bon, ça introduit bien le bouquin. Alors dans ce Ce qui est très bien foutu, c'est que Nicky Six, a eu une enfance très malheureuse. Il revient vachement dessus. Et il raconte vachement bien ce problème-là, c'est-à-dire que sa mère l'a eu très jeune. Elle avait 19 ans et il n'a pratiquement jamais son père. Son père est parti quand il avait 18 mois. Et donc après, sa mère se remettait systématiquement avec d'autres mecs. Et à chaque fois que sa mère se remettait avec d'autres mecs, elle le balançait chez ses grands-parents parce que
ça a fait mal.
Un petit peu immature, elle était un petit peu immature, elle n'était pas, ça lui tombait dessus par hasard et tout, donc ok. Et au hasard d'ailleurs, ça c'est assez intéressant, c'est assez rigolo, au hasard des rencontres de la mère de Nicky Six, dans les années 60, apparaît un certain Richard Pryor, le Richard Pryor, le Black, hein, qu'on connaît tous, quoi, comédien du Saturday Night Live Show. Qui à un moment a fait partie de la vie de la maman de Nicky Six. Donc ceci conjugué à cela, adolescence, enfance et adolescence dans l'Idaho, dans un trou complètement paumé, au lycée pareil, considéré comme un moins que rien, donc il se tourne naturellement vers les dérivatifs de la jeunesse d'alors. Fin des années 60, début des années 70, le rock and roll et ce qui va avec. Il décide à faire une carrière. Il est assez souvent décrit dans ce bouquin par les autres comme étant un control freak, un mec qui veut tout contrôler, qui veut tout diriger, qui sait exactement ce qu'il veut faire. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela que c'est lui le patron dans Motley Crue. Et là, ce qui est assez rigolo, enfin, c'est rigolo et ce n'est pas trop rigolo non plus, hein, c'est que il est très conscient de son état, même quand il est super défoncé, il sait que c'est pas bien, il sait qu'il doit combattre son addiction, ses addictions, hein, parce que c'est la totale, et avec Motley Crue ça va vraiment très loin, hein, je vous en parlerai un petit peu plus tard, hein, quand il dit quand j'ai déménagé sur Los Angeles, j'ai découvert la cocaïne, là ça a un petit peu augmenté les caractéristiques que j'avais déjà acquises quand j'étais jeune, d'ailleurs je pense que dès que je suis né, j'étais prédisposé à ce genre de choses-là, mais avec l'alcool, avec l'acide, la cocaïne, c'était juste des aventures. When I met heroin, it was true love. Tu vois, il raconte bien ce genre de choses, quoi. Il y a pas de problème. Et ça va vraiment très très loin. Alors il décrit absolument tout, c'est-à-dire qu'il est sincère dans ce qu'il raconte, et c'est ça qui est vraiment poignant, parce que on est devant un type, on lit. On assiste à la vie d'un type, hein, qui se débat avec son problème d'addiction, mais qui est complètement sincère et qui sait qu'il va au fond du trou. Hein. Ce qu'il sauve un petit peu, quoi, c'est qu'il joue dans un rock à succès, donc il n'a pas de problème de pognon. Donc il lui suffit de passer des coups de fil pour avoir de la dope. Le dealer vient à domicile et tout. Et quand il devient complètement parano, au point de voir, quand il est enfermé dans sa maison, dans sa villa à Van Nuys à Los Angeles, et qu'il est super parano et qu'il se dit putain merde, là dehors il y a des Mexicains avec des nains qui veulent essayer de m'attaquer. parano, tu vois, vraiment parano, quoi. Et puis
après, toujours. Bravo,
oui,
hein.
Oui, non, mais qui dit des Mexicains avec des machettes, oui, et qui dit oh putain non, il faut que je balance toute la dope, hop, il balance toute la dope qu'il a dans les chiottes et tout, et hop, 5 minutes après il retéléphone à son dealer, allez reviens, j'ai plus rien et tout. Tu vois, c'est assez facile de ce point de vue là, mais quand il s'obstine également, quand il va shooter, quoi, à shooter et à prendre la flotte dans les chiottes, alors que dans ses chiottes, juste à côté, il a le lavabo, donc il pourrait prendre l'eau. Mais il a ce truc et tout. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment super glauques. Et donc, c'est un petit peu le parallèle entre ce mec qui est dans un groupe super connu, qui est la tête pensante de ce groupe, qui est l'un des seuls rockers, l'un des seuls artistes dans le monde du rock à avoir négocié le contrôle de ses masters, à savoir les bandes enregistrées. Quand au départ un groupe de rock n'est pas trop connu, ils font confiance à la maison disque qui va les signer pour la première fois, mais seulement la maison disque généralement va garder les masters, qui arrivaient pour les Stones, qui n'ont pas les droits des chansons. Non, ça, de leurs chansons.
Ça c'est la gestion des droits aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est le copyright, c'est-à-dire les droits moraux, les artistes en sont dépossédés. C'est pour ça même que Prince a été obligé d'abandonner son nom quand il a quitté Warner.
Voilà.
Et donc les droits n'existent pas de ce côté-là.
Et donc Nicky Six est le premier qui à un moment donné justement va voir la, l'exécutif de la maison disque des Motley Crue et dit ok, maintenant je veux récupérer tous mes masters et tout, maintenant je veux avoir tous mes droits. Mmh. Et c'est le premier à les obtenir. Tous les autres, tous les grands artistes, Bowie, les Stones, tous ceux qu'on connaît, n'ont jamais pu avoir ce privilège-là. Et c'est Nicky Six le premier qui l'obtient. En plus, camé comme une bête et tout. Enfin bon, je vous passe les détails. Et bon, c'est pas un hasard d'ailleurs si ça commence le premier jour. Ça commence le 25 décembre. C'est d'ailleurs le premier morceau, hein, celui que t'as que t'avais passé en entrée, où c'est carrément, il lit carrément le début de son Heroin Diaries.
Life is beautiful, voilà le nom du morceau.
Ouais, mais ça c'est le troisième, le premier, donc c'est la soirée de Noël où il est tout seul chez lui et il dit ok, j'ai pas de potes et tout quoi. Bon, les autres ils sont chez eux avec leur famille et tout. Faut dire que lui il a une vie amoureuse un petit peu compliquée, c'est-à-dire il est maqué avec Vanity Six, une des anciennes chanteuses qui a émergé sous Prince, t'en parlais un petit peu avant, qui a fait quelques morceaux et tout, mais qui était une crack addict comme c'était pas permis. D'ailleurs, quand il parle de dope, là, il parle de tas assez considérables, on va dire, qui s'envoient. La dope, bien entendu, est pure. C'est pas de la merde, c'est pas des trucs coupés qu'on peut acheter dans la rue. Hein, c'est des trucs qui sont vraiment très très costauds. Et on remarque qu'ils font un petit peu la différence. Ce qui est apparu d'ailleurs dans le début des années 70, à savoir que pour eux, et ça c'est typiquement américain d'ailleurs, hein, c'est que pour eux, la coke, c'est pas vraiment une drogue dure. C'est-à-dire que la coke, bon ben ça va quoi. Vu les effets que ça a produit, ben on se dit bon ben ça va, hein, c'est, je suis pas cassé, je pique pas du nez, donc ok, c'est pas une drogue dure quoi. Par contre, bon, l'héroïne, c'est clair, c'est une drogue dure. L'alcool en grande quantité, en énorme quantité, là aussi, c'est plus ou moins une drogue dure. Il y a plein de passages comme ça qui sont vraiment excellents. Nicky Six, vers la fin du bouquin, et c'est réellement arrivé, fait une overdose dans l'hôtel de Slash. En plein milieu d'une tournée, Slash, le guitariste de Guns N' Roses, ouais. Vu que c'est eux qui mettent le pied à l'étrier à Guns N' Roses et qui leur font faire leur première partie lors de leur tournée de 86-87, donc dans la deuxième partie de la tournée, et lui naturellement il devient copain avec Slash, qui commence à considérer comme son petit frère, un petit frère qu'il n'a jamais eu. Faut dire que dans sa vie personnelle également, outre le fait qu'il n'a jamais connu son père, que sa mère l'a tout le temps délaissé, il avait une petite sœur qui est née mal formée et autiste dès le départ, et qui meurt en même temps, la même année, hein, à l'âge de 20 ans, quoi, 22 ans, et donc ça rajoute encore au traumatisme, quoi, disons bon bah il s'en prend plein la gueule. Paradoxalement, c'est un type qui a juste besoin de passer des coups de fil. Hey, j'ai plus de pognon, ramène-moi 5000 dollars. D'ailleurs, il y a des commentaires où il dit ok, ce soir après le concert et tout, quoi, on est allé dans un bar à entraîneuse, un bar de strip et tout. Au total, on a dépensé 25 000 dollars. Ok, pour eux, c'est normal. Hein, c'est-à-dire que, ok, ça fait partie de la vie. Rock'n'roll, quoi. À fond les manettes, quoi. Mais bon, nous, ça nous paraît un petit peu outré, quoi. Mais pour eux, c'était complètement naturel. Et d'ailleurs, ça, ils le déclarent souvent. Assez souvent.
Je rappelle qu'on est quand même sous le coup de deux lois, celle de juillet 1970 à propos justement de l'apologie de la drogue, même si on en parle en mal, et une autre loi, donc qui est la loi Adopi, comme quoi on n'a pas le droit de dire que les artistes sont riches.
Ouais, non, mais justement, le paradoxe, c'est ça, c'est que il est tout le temps sur le fil du rasoir, mais en se disant, bon, ok, c'est pas le problème, de toute façon, c'est pas ça qui est mon moteur. Hein, le fric, c'est pas mon moteur. Bon, ça m'aide, mais c'est pas ça, quoi. Ils peuvent se permettre de bousiller des chambres d'hôtel, de péter des bagnoles. Bon, ça fait partie de la vie des rock'n'roll. D'autres les ont fait avant, ok. Hein, c'est pas ça qui est le plus important pour eux. Pour eux, c'est le lifestyle. Enfin, pour lui, c'est ça, c'est son style de vie, ce qu'il a envie de faire, la musique et tout ça. Et alors, ce qui est très bien, c'est que ça a été écrit donc entre 86, enfin ce qui est raconté là-dedans a été écrit entre 86 et 87. Bon, il a réécrit ce livre en 2006 avec l'aide d'un journaliste professionnel, journaliste rock professionnel, pour corriger les fautes d'orthographe, quelques fautes de syntaxe bien entendu. Mais ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que si vous regardez, il y a le texte en noir avec chaque fois la date, l'heure et tout, et il y a également des textes en rouge. Et les textes en rouge, en fait, eh bien, ce sont les commentaires après coup. Les commentaires qui ont été demandés aux différents intervenants qui sont cités justement lors des différents passages, en demandant leur ce qu'ils en ont pensé après coup, c'est-à-dire quand ils voulaient faire le bouquin, ils ont dit ok, écoute, on fait le bouquin d'après ça et tout, tu te rappelles comment ça s'est passé. Donc chacun va donner sa version de l'histoire qui est racontée par Nicky Six lors de son journal. Alors bon, bah il y en a qui sont partants plein pot, il y en a d'autres où je me souviens pas. Enfin bon, l'histoire est légèrement différente et tout. Et il y a cette fameuse histoire où Nicky Six donc fait cette overdose dans l'hôtel de Slash et est déclaré mort. C'est-à-dire que bon bah il y a une nana, la copine écossaise de Slash qui essaie de le ranimer et tout. Ambulance, direction l'hôpital et tout. Tout de suite, c'est une personnalité relativement connue aux États-Unis.
Et qui surtout donc, une assurance maladie.
Automatiquement, les radios se font l'écho. Nicky Six est mort. Il y a pas de problème et tout. Et là, c'est carrément le truc à lui. C'est-à-dire que lui il tombe dans le coma et tout. On le met sous perf et tout. On l'habille avec les fringues d'hosto et puis bon bah il se réveille au bout d'un moment, bon bah ouais, je suis où là, qu'est-ce qui se passe et tout, bon bah il se dit bon bah je suis à l'hosto, bon bah oh, et c'est pas la première rodée, c'est-à-dire au fur et à mesure du bouquin il doit en faire au moins 5 ou 6 quoi, où il tombe dans les vapes tout, mais il se réveille une heure, deux heures après, tranquille, hop, et puis ça repart, allez vas-y. Et là le coup le plus flagrant quoi, c'est quand même il sort de l'hôpital et bon bah comme les infirmiers sont là plus ou moins, il se barre par la fenêtre, alors il atterrit dans le parking, et dans le parking il y a déjà des fans qui sont dehors et puis qui sont là, Nicky il est mort et tout, avec des cierges allumés et tout, puis hop il tombe sur deux nanas et tout qui sont là, ah mince, Nicky Six t'es pas mort et tout, non et puis bon il est pratiquement à poil, il a juste sa blouse d'infirmerie et puis il dit prête-moi ta veste, prête-moi ton fut et tout, alors que c'est des petites nanas qui sont deux fois moins taillées que lui. Hop, il fout les fringues, il rentre chez lui et qu'est-ce qu'il se fait, hop, direct il s'envoie un petit shoot histoire de se remettre devant. Non, c'est voilà, c'est Heroine Diaries, c'est vraiment très très bien, c'est très une plongée vraiment dans le monde de l'addiction et on est touché, vraiment moi j'ai été touché par ce livre parce que bon bah le personnage est sincère, il est cru mais il est sincère et là
les crous, oh facile,
non mais c'était vraiment pas dans cet esprit là et là vraiment bah on tombe de... Alors bon, c'est la version anglaise, je vous l'ai dit, la version française n'existe pas, mais enfin ce n'est pas Shakespeare, le bouquin se lit quand même très facilement, on va dire, hein, pour quelqu'un qui pratique relativement bien l'anglais, quoi. Mais bon, sans avoir besoin d'avoir fait des études supérieures en anglais, hein, on peut lire le bouquin vraiment sans problème.
Chez quel éditeur, tu as oublié de le dire?
Alors, c'est Pocketbook Autobiographie, et ça coûte 9,99 €, donc c'est même pas excessif, tu vois, quoi.
Ouais, ça fait dans les 12 € à peu près, grand max. Ouais. On va passer à totalement autre chose puisqu'on revient à notre Fantasy Mundial 2010 et t'as toujours pas fait le logo.
Ah bah écoute, on peut pas tout faire. Hein.
Mais Thomas, tiens, en ce moment sur son blog, il fait le pari de une illustration
par jour. La durée de la Coupe du Monde.
Et c'est pas mal d'ailleurs. Ah, allez hop.
Ah bah c'est quand il y en a plusieurs hein, que ça va pas, qu'il y a des problèmes.
Allez, on y va avec donc une nouvelle marque de crevettes.
Voilà, donc on rappelle pourquoi on fait ça. Donc en fait, c'était comme la Coupe du Monde se passe en Afrique du Sud et c'est un petit hommage de notre part au film District 9 avec cette invasion de crevettes qui c'est l'invasion ratée. Et donc nous avons fait le parti pris de faire un petit topo sur différentes races de crevettes.
Mais attention, on n'est pas raciste. Hein.
Voilà, sur
on est juste xénophobe.
Sur leur prédisposition au soccer. Alors aujourd'hui, après les arachnides de Starship Troopers la semaine dernière, aujourd'hui ce sont les martiens de Mars Attacks. Alors, donc on va faire le petit topo. Donc leur stade, c'est le Red Bull Arena. C'est voilà les clubs emblématiques. Il y en a deux hein, surtout qui se tirent la bourre, donc bon ils ont un langage assez limité, donc c'est le AKK United qui a été champion les deux dernières années, mais c'est vrai qu'en nombre de titres c'est plutôt l'étoile rouge du AKK City qui détient le record. La tenue bah c'est maillot vert hein, voilà c'est pour les petits hommes verts, on dit bon les maillots verts avec les cloches à trois bandes. Alors licencié, bon de toute façon c'est pas vraiment une grande nation de foot, hein, on va pas se cacher, licencié c'est Peanuts. c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment forts en foot du fait aussi de leur morphologie. Je vais y venir. Alors leur formation, c'est un vague schéma tactique en kick and rush. Hein, le profil des joueurs petit, rapide. Le système est un peu exploité par un système en 4-3-3 hein, avec deux ailiers. Alors, leur tactique consiste généralement à tirer dans le tas, hein, sans pitié jusqu'à ce que le ballon rentre. Alors bon, les joueurs ils sont très prenables en duel. Hein. C'est surtout la force du collectif de l'équipe qui rend cette formation un petit peu dangereuse, mais voilà, c'est pas des foudres de guerre non plus. Contre cette équipe, ils ont un centre de gravité assez bas, hein, donc les adversaires ils devront privilégier les longs ballons aériens. C'est vrai que les équipes scandinaves ou anglaises sont plutôt prédisposées pour leur foutre la pâtée. Il faut miser évidemment sur une grande force de percussion et de présence athlétique, hein, parce que bon, t'as vu les martiens, ils t'arrivent au genou. Alors bon, voilà. Alors en difficulté, leur repli défensif est pas très au point, hein, c'est du pain béni pour les artilleurs adverses, et il faut pas non plus hésiter à mettre le paquet sur les longs tirs de loin. Il faut mettre des grosses patates, t'as vu les morphologies, les gabarits, ils volent un petit peu, hein, c'est, tu vois, comme dans Liv et Tom quand ils sont à 10 pour bloquer la balle. Alors les forces et faiblesses. Alors les forces, rapide, vivacité du jeu, imprévisibilité, mais c'est à peu près tout. Hein, on remet une couche. Alors les faiblesses, on va faire une tartine. Physique fragile. Dimension athlétique, c'est vraiment pas le fort des martiens. Alors ils sont plutôt dotés d'une morphologie qui les prédispose à la gymnastique. Et c'est marrant parce qu'on les a souvent comparés aux équipes de l'ancien bloc de l'Est. Et surtout dans les années 50, souvenez-vous, à grande époque du Brésil, 58, magnifique. Et donc c'est vrai que voilà, c'est plutôt morphologie pour les ex-blocs soviétiques, plutôt dans ce style de sport. Les martiens, sont des catastrophes dans le jeu de tête. Sont peu résistants. Si tu fais une tête, bon déjà, il faut qu'ils soient dans une atmosphère où ils puissent respirer, sinon c'est la cloche qui prend tout. Normalement, tu dois pas jouer avec des cloches, mais il y a eu une dérogation voilà, spéciale pour qu'ils jouent avec des cloches, les pauvres, sinon ça explose. Peu résistant, ils appellent la civière au moindre choc. Vraiment, les physiques, c'est vraiment leur gros point faible. Et en plus, malheureusement pour eux, c'est le pays des vuvuzela. On a vu, ils sont assez sensibles à la dimension sonore.
C'est vrai qu'en Italie aussi, l'animateur de stade, au premier but...
Et voilà.
Non, c'est plutôt en Amérique du Sud. Là.
Ouais, Amérique du Sud, ouais, surtout.
Proche.
Ouais, voilà. Et ça fait splotch. Donc
dommage.
Bon, personne, de toute façon, personne peut les blairer. Donc personne va trop les regretter. L'atout fatal, ils en ont aucun. Les antécédents. Ils sont arrivés en Coupe du Monde, qualifiés in extremis contre l'équipe des Ghosts. De Mars, tu sais, ces grands joueurs, ils ont un peu un look de zombie et ils ont des supporters assez hardcore, hein, parce que au premier Ghost qui fait une bourde, il empale au bout d'une pique, donc c'est pas vraiment la panacée.
Alors on va dire qu'il y a un certain esprit sportif digne du PSG, quoi.
Voilà, voilà. Alors ça se passait au sinistre Shining Stadium de Mars. Et ça a fait couler beaucoup d'encre parce que en fait, leurs adversaires, ils sont un peu entretués. Ils ont traité de nom d'oiseau leur entraîneur. Ça a été une vraie boucherie. Ils se sont pas entendus entre eux. Donc du coup, les martiens,
côté le stade du Ezel, c'est soft.
Ouais, voilà. Donc du coup, les martiens, ils ont été qualifiés in extremis. Bon, comme je vous l'ai dit, on va pas se cacher. C'est une petite équipe. C'est une petite nation de foot. Ils n'auraient pas passé le stade des poules. C'est pas des foudres de guerre, aucun schéma de jeu, ils sont petits, ils ont quasiment aucun atout. Voilà. Donc les martiens. Alors par contre, par rapport aux arachnides, c'est bien pour les sponsors parce que, bon, ils ont des petits corps, mais ça tient bien, ils ont les scaphandres et puis la cloche, on peut mettre soit la virgule de Nike, soit les trois bandes, et ça va. C'est au point de vue visuel, ça va. Donc on va passer sur cette race. Rendez-vous la semaine prochaine pour les d'autres crevettes. On va rappeler les références. Donc Mars Attacks de Tim Burton, c'était en 96. C'était d'après un jeu de cartes des années 50.
C'était pas un jeu de cartes, c'était des cartes à collectionner.
Des cartes à collectionner. Et l'autre référence, c'est évidemment Ghost of Mars de Big John Carpenter de 2001.
Des jeux de cartes à collectionner qui ont inspiré Panini, justement.
D'accord.
Ce qu'ils faisaient dans les cartes de baseball.
Ah, ils ont une prédisposition envers un certain jeu italien. Là.
Contrafloro, El Dia A. Extrait de leur album Segunda Fase. Ils sont des rapports des Américains.
Sin más cadáveres que forman la repisa. Inicia la técnica verbal, explosiva, lírica. Contra flujo, comienza la cadena rítmica. No sé qué piensan, esas cadenas que dicen que informan. Divagan mierda, todos están felices con su cobertura. También de mierda, y mientras tanto escupo en el retrete. Avergonzado de que los pendejos de mi escuela digan que sus primos son cadetes. Basura, así los llamo. Desinformando con corresponsales, se sienten los amos. ¿Y qué me dicen del insulto? Se creen capaces, lo llamaría milenaria técnica de abuso. Mi flow pega en tu cabeza y ni siquiera está codificado en ruso. Insulso, pendejo, estudié comunicación y quiero darle el uso. Amplificando mi vocabulario los expulso. Buscando la verdad, está sucia, lo sé. Pero sigo manteniendo mis palabras en este curso. Y me acompaña el 11, micrófono dispuesto. Y sigue el freak dominando con sus discos, haciendo su discurso. Quiero que sepas una cosa, te informo. Sujeto mi micrófono, oh sí. Ha comenzado la tercera guerra. Agradeceselo a un alcohólico de mierda que guarda más aprecio a su perro que a los recursos naturales de mi tierra. Es mi manera, con unos cuantos dirigentes a su izquierda. Disfraza crímenes de guerra. Buscas ganar un título en mi libreta. A ti y a toda tu familia, hijos de perra. Bien. Olvida, olvida lo que has visto. Mi libertad está sesgada y ahora juzgada por el genocidio. El mundo, el tribunal, el juez es la milicia. Y en cadena se transmite esta grave injusticia. Olvida, olvida lo que has visto. Mi libertad está sesgada y ahora juzgada por el genocidio. El mundo, el tribunal, el juez es la milicia. Y en cadena se transmite esta grave injusticia.
Este pueblo oprimido.
Sí, contraflujo de nuevo en tu oído. Ahora soy testigo de cómo la muerte se transmite vivo por el sentimiento de sometimiento. Siempre es exclusivo al poder el más peligroso virus. ¿Cómo se conserva la paz? Por medio de una bomba de 1200 kilos. Títeres sin respuesta, dependientes al movimiento de los hilos. Ríos de sangre inundan a países asolados por el hambre, dejando montañas de cadáveres, siguiendo la ruta de un misil atravesando mares. Destrucción es transmitida en horarios estelares. Infames por su propaganda, injustificando como el capital es el que manda, injustificando al imperio que se expanda. Apaga noticiario o apaga CNN. Manipulan la verdad, pueden comer pene. Sonido líquido se encuentra en esta casa, nadie que nos frene. Lo real se toma en serio, sigo analizando y aumento mi criterio. Conclusión, el eje de maldad conformado por las capitales del imperio. Se dio el unilateral, el ilegal conflicto. Nadie se da cuenta al final, nadie sale invicto. Por tener el ansia de poder, el dominio, la ganancia. Apaguen esas cámaras y empieza la matanza. Esto solo es la punta de la lanza que atravesará el corazón de la tierra. Entenderán cuando llegue la crueldad de la guerra.
Les scénarios se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Et oui, du sport était en train de nous expliquer pourquoi il boycottait la Coupe du Monde pour voir des
trucs sur Arte. C'est même pas glorieux, c'est même pas glorieux.
Si, il y avait un téléfilm pas mal hier soir sur
13h22, Arte. La partie sportive dans 8 minutes.
Mais bon, ok, ou plus. série tout de suite avec un inédit qui n'est pas vraiment un inédit, c'est plutôt un remake. Alors, des remakes, il y en a eu pas mal. Bon, on connaît surtout depuis que les séries télévisées sont devenues hyper hype, on en fait des films, hein, parce que bon, les scénaristes de cinéma n'ont rien dans le ciboulot, donc on va pomper les idées, on fait de la ressucée. Agence Touriste qui est sorti.
Non, c'est pas que les scénaristes manquent d'idées, c'est les producteurs qui demandent à leurs commerciaux qu'est-ce qui marche bien en ce moment.
Voilà, ouais, ouais, entre autres. Et comme les séries, ça marche bien. Il y a pas de problème. Alors là, il s'agit d'un remake américain d'une série anglaise. Bon, il y en a pas tant que ça. Hein, on connaît Queer as Folk, on connaît Le Prisonnier, on connaît également un petit peu moins quand même. Je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça. L'homme invisible.
Porté disparu.
Hein, L'homme invisible qui au départ était une série anglaise de ITV en 58-59, puis après en 75 est devenue une série américaine NBC. Scénarisé par Steven Bochco, je vous en avais parlé à l'occasion de Steven Bochco, musique de Henry Mancini avec David McCallum dans le rôle de l'homme invisible, mais enfin la série n'avait pas très bien marché, elle a duré une seule saison. Mais il y a également les remakes de séries qui ont bien fonctionné, style les plus connus, Magnum, enfin bon, l'original a bien fonctionné, mais le remake pas tellement, Kojak pareil, Kung Fu, bon ben ça a été Kung Fu 20 ans après et tout, bon là David Carradine trop vieux et tout, donc c'est un petit jeune qui fait les choses à sa place. Mission Impossible, c'est Mission Impossible 20 ans après, là Peter Graves, bon il avait déjà les cheveux blancs, mais c'est pas grave, c'est toujours lui qui a le magnéto qui crame, ou le disque là, dans Mission Impossible 20 ans après, c'est le petit disque déjà. Il y a également, au-delà du réel, The Outer Limits, les séries originales datent des débuts des années 60, 63, 64, et la reprise en 95. On a aussi Dragnet, hein, tu en sais quelque chose avec Ed O'Neill. Dragnet, la série originale, elle date de 52 à 59, c'était une des grosses séries, hein, à la télé, vachement suivie, hein, les enquêtes de l'inspecteur. Joe Friday, Loveboat également, La Croisière s'amuse, avec le retour de Loveboat et tout, avec justement dans le rôle, le type qui reprend le rôle du barman Black, eh bien c'est justement le Philip fils. Morris,
Mission Impossible,
le fils de Greg Morris, qui est dans Mission Impossible 20 ans après. On a également Galactica, le remake de Les Incorruptibles également, bon ben la série n'a jamais été, le remake n'a jamais été diffusé en France, et on attend, il y a également Beverly Hills, avec les nanas qui étaient au lycée avant qui deviennent des profs, Shannen Doherty et consorts, et on attend avec impatience V, et surtout ce qui devrait être peut-être la grosse surprise, parce que casting béton, c'est Hawaii Five-O.
Exact. Dont le générique a été dévoilé il n'y a pas longtemps.
Qui commence de diffusion fin août sur CBS.
Et là, celle dont on parle à l'occasion donc de cette diffusion de cette série américaine, remake américaine d'une série anglaise, c'est Life on Mars, dont je vous avais longuement parlé lors de sa diffusion, la diffusion de la série anglaise, bien entendu. Life on Mars, ce qui plaît beaucoup, hein, bon, bah déjà, c'est cette histoire de paradoxe temporel, hein, Sam Tyler, l'inspecteur, en 2008, qui se retrouve projeté en 73. Alors donc, il y a ces histoires de différences de technologie. Il se retrouve dans le passé. Il a l'habitude des ordinateurs, du portable et tout. Là, bon, maintenant, il n'y en a plus en 73. Maintenant, il n'y en a pas eu en 73.
Et quoi, il y a encore des ouvriers? Vous avez plus eu Thatcher?
Il fait également. Non, il n'y avait pas encore Thatcher. Hein,
oui, c'est vrai. Elle a commencé en 78.
Il y a également la musique, hein, qui fait beaucoup pour la réussite de la série, parce que c'était des morceaux de la pop culture anglaise de l'époque 73, donc avec toujours une partition vraiment impeccable, hein, vraiment quoi, vraiment nickel. L'interprétation, hein, de John Sim, de Philip Gannister, à savoir les personnages principaux, un petit fil rouge qui fait que on se disait bon, on va pas attendre la fin de la série pour savoir comment il va se démerder, quelle est l'explication de ce paradoxe temporel, comment ça se fait qu'il a été catapulté de 2008 à la suite d'un accident de bagnole en 73, hein, puisque c'est révélé dans le dernier épisode de la deuxième saison. Mais par contre, il y a quand même le fil rouge, c'est-à-dire il se retrouve plongé dans les périodes de sa jeunesse, dans les périodes où son père avait plus ou moins magouillé, avait largué sa mère et tout ça, et donc il veut savoir le pourquoi du comment. C'est un petit peu l'enquête parallèle qui sert de fil rouge, hein, dans le Life on Mars anglais. Également la reconstitution très fidèle de l'époque, avec les décors, avec les fringues, les bagnoles et tout, enfin c'est vraiment pile poil, c'est ce qui a fait le succès donc de cette série, et qui a convaincu les producteurs américains donc de faire ce remake qui sera visible dès demain soir sur Paris Première à partir de 20h35, 3 épisodes, une première saison qui en fait 17, alors que le Life of Mars original,
oui, y a c'était pas plus de 8,
8 hein. épisodes ouais. De la première saison, et je crois 12 pour la deuxième, enfin ou 8 aussi.
Enfin, quoi. Ces productions anglaises en général n'ont pas un nombre énorme de saisons de ce côté-là.
Mais ça suffisait amplement, à mon avis. Hein,
oui, parce avec... que justement, ils prenaient le temps, c'était pas une production une semaine par épisode, en général, ils prenaient 2-3 semaines.
Hein. Voilà, alors. Dans dans la série américaine, bah on a quand même un bon casting. Hein, moi je pense que ça peut le faire. Il y a pas de problème avec tout d'abord Jason O'Mara qui va reprendre le rôle de John Sim, hein, c'est-à-dire l'inspecteur Sam Tyler. Harvey Keitel dans le rôle de Philip Glenister, hein, savoir le patron de la des inspecteurs, hein, le mec rentre dedans à fond les manettes, et Michael Imperioli qui joue le rôle du lèche-botte et tout, du l'inspecteur en second et tout, quoi, mais qui est toujours là, lèche-cul et tout, quoi, qui va essayer de descendre l'autre plus bactère et tout, parce que l'autre est un peu largué au début, parce que bon, bah, il se retrouve dans une période qu'il connaît pas. Si, il connaît ça, parce que bon, bah oui, c'était dans le temps, hein, c'était il y a 25 ans, donc.
25 ans, Duce ?
Bah, 73-2008.
35 ! Oui, je sais, ah, ça bon, fait oui. mal,
ouais,
mais.
Ouais, non, mais bon. On est plus à ça près, hein, de toute façon, quoi. Donc, ça peut le faire, hein, y a pas de problème. On va suivre ça à partir de demain soir. C'est sur Paris Première, donc à 20h35, Life on Mars, la version américaine. Revenons un petit peu à The Killing, dont je vous parle maintenant tous les samedis, tellement c'est bon, tellement c'est excellent. C'est diffusé sur Arte à partir de 22h25. Rediffusion le vendredi, mais à 3h du mat, donc. Hein, faut prendre beaucoup de café. Et là, ben, on vient de passer la moitié de la saison. Alors, je rappelle, un meurtre, une nana est découverte, partiellement dénudée dans le coffre d'une bagnole, elle a subi des sévices sexuels et corporels, assez maus, on va dire. Et donc, eh bien, une équipe d'inspecteurs, inspecteur en chef, plus le mec qui doit la remplacer, vu que elle doit partir en Suède, continuer à exercer son métier, mais parce qu'elle va rejoindre son mec avec son fils. Son mec d'ailleurs qu'on apprend au bout de l'épisode 7 ou 8 est très peu présent, mais on apprend que son mec est criminologue, psychologue, criminologue, donc c'est un mec qui fait plus ou moins des profils, des trucs comme ça, qui lui file un petit coup de main, et donc cette inspectrice, eh bien, au fur et à mesure des fausses pistes, des faux suspects, des faux coupables et tout, eh bien là on en arrive quand même depuis mardi dernier, eh ben, à la conclusion que ce serait peut-être le politicien qui fait partie de l'histoire. On suit toujours conjointement l'enquête, on suit les dégâts causés par la mort de la fille dans la famille de celle-ci, c'est-à-dire les parents, hein, et également la campagne, j'allais dire présidentielle, non, la campagne municipale, donc de Troels Hartmann, qui veut être le nouveau maire de Copenhague. Ça se passe à Copenhague, c'est danois. Troels Hartmann, interprété par Lars Mikkelsen, et là, j'ai vérifié, c'est le grand frère de Mads, grand, pas par l'âge, mais grand, parce que quand tu les vois les deux l'un à côté de l'autre, l'autre il lui mange sur la tête, hein, Lars. Il n'y a pas de problème. Le mec, il doit faire presque 2 mètres, quoi, tu vois. Et bon, on va dire qu'il a un certain charme physique indéniable. Il n'y a pas de problème. Ça le fait, justement. Et c'est ce qui en fait peut-être le coupable potentiel, parce que les uns s'accumulent. Et que là, ben, à la fin du dernier épisode de mardi dernier, c'est-à-dire le 10e jour, parce qu'en plus, c'est mené de telle manière à ce que chaque épisode représente un jour d'enquête. Là, eh bien, mardi prochain, on en sera au jour 11, puis au jour 12. Et là, je peux vous dire que bon, ça me laisse encore sur le cul. Il y a pas de problème. Un rythme toujours assez lent, c'est-à-dire que les épisodes de mardi dernier, pendant un épisode et demi, il ne se passe pratiquement rien. Si l'un des faux coupables s'est fait passer à tabac par le père de la morte, de la défunte, père de la morte, qui va se retrouver au trou, parce que bon, il se fait choper quand même, quoi. Parce qu'il a des antécédents, on va dire, de ce côté-là. Il a déjà, il y a 20 ans plus tôt, tué un dealer, parce que bon, ça se fait pas, et puis qu'il aime pas les dealers, hein, tout simplement. Il l'a bastonné à mort, et donc il essaye de faire la même chose avec celui qui soupçonne être l'assassin de sa fille, et qui en plus, a le défaut d'être un petit peu arabe. C'est-à-dire, pas du tout ce qu'on trouve du côté de Copenhague, tu vois. et qu'en plus eh ben il y a des petits indices concordants comme quoi ben il passe des messages en arabe ouais tu fermes ta gueule sinon je balance tout et en fait ce n'est pas du tout ça non simplement qu'il voulait aider une petite gamine à se débarrasser de sa famille parce que sa famille voulait la marier de force enfin bon bref c'est une autre histoire une fausse piste et tout enfin c'est très lent
bourré de choses trap
et au bout d'un moment pas ça pète d'un seul coup comme ça quoi en 5 minutes t'as une avalanche d'informations de révélation et tu te dis wow ça va c'est pas mal c'est vraiment bien amené hein, la série est écrite par Søren Weistrup un truc comme ça Weistrung qui est également le scénariste donc et le producteur de cette série en tout cas là je vous conseille de suivre on peut rentrer quand même dans la série même si on a loupé le début il n'y a pas de problème hein. Y a toujours un petit pitch en début previously on, puis ça le fait quand même on arrive quand même assez vite à comprendre il n'y a pas tellement c'est pas vraiment une série d'action bien que ça bouge quand même pas mal quoi. Mais c'est vraiment très très bien foutu là il n'y a pas de problème c'est à voir c'est la série du moment c'est The Killing sur Arte donc mardi prochain à partir de 22h25.
13h35.
Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai une autre série dont je vais vous parler, qui sera diffusée par France O également mardi prochain, mais à 20h35. Une série anglaise.
À noter que France O maintenant est accessible sur le réseau TNT, puisque c'était diffusé uniquement sur la région Île-de-France. Donc il y a eu une réorganisation. Voilà,
France O, c'est France Outre-mer. Hein,
on peut le capter maintenant, même si vous n'avez pas l'accès au câble ou à la DSL.
Voilà. Et là, eh bien, France O vous diffuse donc mardi prochain, à raison d'un épisode. C'est une mini-série anglaise qui ne compte que 5 épisodes et qui s'appelle Five Days. Et là, c'est un concept qui est un petit peu identique. Mais au niveau de la mise en forme uniquement, parce qu'il s'agit de l'histoire d'une mère qui va perdre ses deux enfants qui sont enlevés. Et donc, eh bien, les inspecteurs vont devoir essayer de retrouver ces enfants, savoir ce qu'ils sont devenus. Et la mini-série eh bien, se base sur 5 jours d'enquête qui se suivent, d'où le titre Five Days. Et c'est interprété par Christine Tremarco, Sarah Smart, la collègue de l'inspecteur Linley dans Inspecteur Linley Mysteries qui a été diffusé sur Canal Jimmy et Daniel Oyewolo qu'on connaît parce que c'est le black qu'on voit dans Spooks.
Ah oui.
Voilà.
Qui est un petit peu jeune, un petit peu imberbe dans cette
tout
équipe.
Tout à fait. Voilà.
Enfin, donc Spooks, plus connu en France sous le nom de MI5.
Ouais, MI5 si vous préférez en français. Donc ça c'est mardi prochain. Alors on peut très bien se faire les deux hein, tu vois. D'abord Five Days mardi à partir de 20h35 un épisode et ensuite à 22h25 The Killing sur Arte. Ah ben non, il y a match de foot. Bon, c'est pas grave, on loupera le match de foot.
Arrête les gros mots s'il vous plaît.
Un poco cinéma.
C'est un poco, par favor.
Oh, et alors, aujourd'hui, sur Sifi, ce soir à 20h45, les aventures du baron de Munchausen, yeah. Et à 22h50, les voyages de Gulliver, de John Cher en 1960 avec Kervin Matthews. Kervin Matthews, tu connais?
Non.
Eh oui, c'est lui qui joue dans Un an plus tard, Jack le tueur de géants. Et 3 ans plus tard, c'est lui qui est OSS 117, se déchaîne, de André Hunebelle, puis qui est également OSS 117 dans Banco à Bangkok pour OSS 117 de Michel Boiron en 1964. C'est Kervin Matthews, le premier OSS 117. Ce soir, sur Ciné Cinéma Frisson, il y a également à 20h40 Urban Justice de Don E. Fauntleroy avec Steven Seagal, Eddie Griffin et Danny Trejo. Mexicano. Demain sur France 3 à 12h30, Thé et Sympathie, un Vincente Minnelli de 56 qui est pas tellement connu avec Deborah Kerr et Leif Erikson. Sur Énergie 12, toujours demain soir à 20h35, de battre... Alors là, Énergie 12, d'habitude, diffuse des films grand public, des films de merde,
des fonds de bac à caisse de vidéoclub.
Deux films nickel qui tuent dans un registre complètement différent. Tout d'abord à 20h35, De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard avec Duris, Horatica, Emmanuel Devos, Nils Arestrup. Et ensuite à 22h25, La ligne rouge de Terrence Malick.
Ils ont fumé.
Bon bah oui, ils ont fumé certainement quoi. Oh bah non, ils ont arrêté de fumer bon. Plutôt quoi. Demain sur 13e rue. Alors, j'avais oublié de vous dire en préambule hein, de cette semaine cinématique à la télé, c'est la semaine Chabrol. Des Chabrol, il y en a à la toque. Déjà demain soir, deux Chabrol sur 13e rue le 1er à 20h40, les Noces Rouges de Chabrol en 73 avec Michel Piccoli, Stéphane Audran qui est son actrice, c'est son actrice hein, qui est pratiquement dans tous ses films, enfin du moins les films d'une certaine époque, et également Claude Pieplu. Ensuite à 22h20, La Femme Infidèle de Chabrol en 68 avec Stéphane Audran, Michel Bouquet et Maurice Ronet, là il n'était pas encore suicidé. Sur TF6 à 20h40, On se calme et on boit frais à Saint-Tropez,
oh,
le Max Pécasse avec Brigitte Lahaye.
Ouais, il va falloir s'y attendre pendant les
sur
l'été, hein.
Cinéma Club à 20h40 demain soir, L'Épouvantail de Jerry Schatzberg avec excellent film Palme d'Or en 73 à Cannes avec Gene Hackman et Al Pacino, magnifique, excellent hein, très bon. Schatzberg qui d'ailleurs n'est pas un cinéaste pur jus puisque au départ c'est un photographe de mode, puis après il fait des pubs télévisées. Tu vois, tiens, on connaît ça dans les années 80, surtout, il y a beaucoup de réalisateurs et tout qui sont apparus, 90, qui en fait étaient des réalisateurs de pub et qui sont devenus cinéastes par la suite. On a vu ce que ça a donné d'ailleurs. Et Jerry Schatzberg, il a fait une très courte carrière cinématographique, mais il nous fait quand même avant 73 et L'Épouvantail, Panique Needle Park en 71, un film sur la dépendance à l'héros avec déjà Al Pacino. Sur Action, demain soir à 20h40, Invasion USA de Joseph Zito avec Chuck Norris, bien sûr. On a lundi sur Arte, Landru de Claude Chabrol en 62 avec Charles Denner, Michel Morgan, Daniel Darieux, Stéphane Audran. Ouais. Sur RTL9 à 20h35, celui-là il tue, c'est American Ninja 4, Force de frappe.
Ouais, oui, forcément il tue.
Cédric Sundstrom avec Michael Dudikoff et David Bradley. Où Michael Dudikoff il va sauver ses potes ninja qui sont repris en otage par ses potes qui sont pris en otage par des ninjas qui veulent envahir New York. Ouais, c'est ça.
Fou.
Sur 13e rue, demain, lundi, pardon, à 20h45. À 20h45, lundi, sur 13e rue, Le Prix du Sang de Jeff King avec Steven Seagal et Dmitri Tchepovetsky, qu'on connaît puisque c'est le mec qui jouait le rôle de l'ingénieur à tout faire, le cerveau dans Regenesis. Rappelle-toi. Celui qui a le chien qui meurt à un moment et donné,
bah,
et de sauver.
Et qui jouait aussi dans la série FX, effets très spéciaux.
Voilà. Après, ce Prix du Cendre avec Steven Seagal sur 13e rue lundi à 22h30, L'œil du malin, Chabrol de 61 avec Jacques Charrier et Stéphane Audran. Sur Sci-Fi, lundi à 20h45, les jumeaux légendaires de Trip Reed en 2005. Ça se passe en Irak et il y a des monstres en Irak, tout le monde le sait. Avec Robert Chakotay, Rob Beltran, bien sûr, Jeff Fahey et Chase Masterson. Et à 22h15, Ils sont parmi nous de Jeffrey Obro en 2004 avec Nana Visitor, Michael Dillalo et Alison Eastwood. Mais qu'est-elle venue foutre là ? Sur TCM, à 20h40, un grand classique, Luc la main froide de Stuart Rosenberg en 67 avec Paul Newman, George Kennedy et Denis Hopper, hein, dont on parlait il n'y a pas si longtemps que ça, des Profundis. Et sur Cinéfix, lundi à 21h, Avalon de Mamoru Oshii. Mardi, sur France 2, Rambo 2, puisqu'on a vu le premier dernier.
Sauf erreur, d'ailleurs, je tiens à préciser, je crois que Avalon est passé en VO. Donc il y a la version originale. Attention, Duce, il y a un piège.
En polonais.
Le film est tourné en
polonais. Ouais, c'est l'acteur actrice polonais. Hein.
Ouais.
Mardi, donc.
Je pensais que ça allait te faire plaisir, tant pis.
Mardi sur France 2, 22h40, donc Rambo 2 de Pancos Mastos avec ceux d'habitude plus Charles Napier.
La mission.
Ok. Sur Paris 1er à 22h30, Desperado de Roberto Rodriguez, le seul, l'original, avec Buscemi, Chich Marine,
Sam Hayek.
Non, justement, c'est El Mariachi, l'original.
Ben, El Mariachi s'appelle El Mariachi, alors que là c'est Desperado, parce qu'après il y a Desperado 2.
Oui, avec, avec ce qu'on sait dedans.
Voilà.
En guise de séquelles.
C'est pour ça que je dis l'original.
D'accord.
Non, mais c'est pour ça que les suites.
Le premier c'est El Mariachi, quoi.
C'est pour ça que les suites on les appelle des séquelles, hein, on sait très bien.
Sur 13ème rue à 22h30, juste avant la nuit de Chabrol en 70 avec Stéphane Audran, Michel Bouquet et François Perrier. Sur Comédie, mardi à 22h20, Les Collègues, un film de Philippe Dajou qui est d'actualité avec Joël Cantona, Albert Cantona, c'est le père, Philippe Bosseau, non Patrick Bosseau, pardon, Christian Charmentant, ah il y a quand même un acteur dedans, et Sacha Bourdeau, tu t'en rappelles de ce film magnifique de 99.
Mais bon, je l'ai pas vu, mais je m'en souviens.
Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah alors, un film un peu mieux quand même, mardi prochain sur TCM à 20h40, L'Empire du Soleil. L'Empire du Soleil de Spielberg avec Christian Bale, tout petit, tout mignon.
Très
son papa, John Malkovich, et sa maman, Miranda Richardson. Ouais, c'est beau, c'est magnifique. Mmh. Si, c'est vrai. C'est
non, il est très beau.
Non, vraiment, c'est un des meilleurs de Spielberg. Sur Polar, mardi prochain, 21h, L'Exécuteur de Sam Wanamaker avec John Collins et George Peppard, ainsi que Nigel Patrick qui joue le rôle de l'agent trouble. C'est une histoire d'espionnage. Mais avec Joan Collins bien déshabillée, puis à l'époque elle était appétissante, on peut le dire. Hein. En 70, elle était jeune. Hein, et, mercredi, et que du naturel. Hein. À l'époque.
Ça fait longtemps.
À l'époque. Mercredi sur NRJ 12. Et là, c'est étonnant parce que d'habitude, NRJ 12 le mercredi, c'est le film de Booze de Daube de la semaine. Et là, bah non, c'est une mini-série qui s'appelle House of Saddam. Qui est une docu-fiction, on va dire, hein, enfin c'est un documentaire mais fictionnel, donc qui raconte ben l'avènement de Saddam, et c'est sur 30 ans quoi, carrément quoi, fin des années 70 jusqu'à
Ah oui, quand il a commencé son semi-coup d'État sous prétexte de maintenir justement la laïcité en Irak et tout ça.
Voilà, donc de 20h35 à 23h50 avec Yigal Naor, Shoreh Akhdaloch, Mounir Margoum, c'est donc sur NRJ mercredi prochain. Sur 13e rue mercredi prochain également à 22h30, La Rupture de Claude Chabrol avec Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, Jean Carmet, Jean-Claude Drouot, Annie Cordy, oui. Sur Sci-Fi mercredi prochain à 20h45, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, cette version est excellente. C'est une version anglaise, c'est normal, de Maurice Phillips avec John Hannah et David Warner, entre autres. Et sur Ciné-Cinéma Classique, un bon film français des années 60, La Métamorphose des Cloportes, d'après le bouquin d'Alphonse Boudard, de Pierre Granier de Fer avec Lino Ventura, excellent, Pierre Brasseur, Charles Aznavour et tout, c'est magnifique, c'est excellent. Sur Polar, mercredi prochain à 21h, Le Gang Anderson de Sidney Lumet en 71 avec Sean Connery, Diane Cannon, Martin Balsam et Christopher Walken. Et sur Orange Ciné Géant, toujours mercredi prochain à 20h40, L'Aventurier du Rio Grande avec Robert Mitchum, La Barbe et Le Sombrero, ainsi que Julie London. C'est un film de Robert Parrish en 1959. Jeudi, les téléfilms du jeudi après-midi sur TF1, 14h55, Sous le soleil de Miami de Ben Kaplan en 2009 avec Vanessa Marsil. C'est la nana qu'on voit dans Vegas, tu sais, la série avec James Caan, Montecito, oui. Casino et tout, quoi. Et qui d'ailleurs s'est marié avec Josh Duhamel, hein, le mec, le belâtre et tout, quoi. Ils se sont rencontrés sur tournage et disent hop, hop, vas-y. Mais à côté de Vanessa Marsil, il y a Casper, Rico, Van Dien, Tessie Santiago et John Seda. Ouais. Sur M6, toujours jeudi après-midi à 13h45, Prince des Villes ou Prince des Champs de Thomas Nenstil en 2009 avec Tobias Hurtel, Nadesha Brenicke et Liane Forestier. C'est l'histoire d'une styliste qui est de retour dans son village natal et qui retrouve un amour de jeunesse qui en fait a parié avec des amis qu'il la séduirait à nouveau. Hein, ça le fait quoi. Ou alors on a également jeudi après-midi sur Paris Première à 15h10, Seul dans le noir de James Keach en 2001 avec Jane Seymour, Dr. Quinn, Alexandra Picato, je sais pas, Corinne Nemec, Parker Lewis et William Russ, Wise Guy. L'histoire d'une mère et de ses deux enfants qui sont piégés dans un supermarché, plongés dans l'obscurité alors qu'un tueur rôde. Oh, que va-t-il arriver? Et sur Teva, toujours jeudi après-midi à 13h35, Un été avec mon père de Sam Pillsbury en 2003 avec Kristen Bell, Veronica Mars, Sean Young, aïe aïe aïe, Tim Matheson, oh là, ça plaisante plus, et Edouard Rasner, Lou Grant, bien entendu. Jeudi soir, sur Arte, Betty à 20h35, Chabrol de 91 avec Marie Trintignant, Stéphane Audran et Jean-François Garot. Et sur RTL9, si vous n'aimez pas Chabrol, à 20h35, King Rising, Duvébol, que tout le monde dit que c'est le plus mauvais réel Ed Wood des temps modernes.
Ouais, ouais.
Mais celui-là, il est pas mal, je trouve. Tu vois, franchement, il est pas mal. Et il y en a d'autres qui sont pas mal du V-Ball, en fait, quoi. Avec le casting qui tue de l'enfer de la mort, Jason Statham, Lily Sobieski, Jonathan Rhys-Davies, Ron Perlman, Kristanna Loken, et encore j'en oublie, quoi, tu vois. Mais alors vraiment, et puis là, ça dépote, hein, y a pas de problème. Jason Statham, il crève, enfin bon, c'est magnifique. Ron Perlman, il est du côté des mauvais, c'est-à-dire de la plèbe, donc il crève pareil. Bon, c'est bien, quoi. Sinon, si vous préférez Chabrol, sur 13ème rue, jeudi prochain, à 22h30, Les Noces Rouges, donc là, déjà cité, hein, avec Stéphane Audran en 73, ouais. Ou alors sur TF6, jeudi prochain, 22h55, Commando de Marc Lester avec Schwarzy, Alyssa Milano, Roy Do Chang, Dan Edaya, ouais. Ou alors une petite curiosité, qui est, à mon avis, une reprise d'un film français qui avait été pas mal avec Jean-Yann, une histoire de coiffeur. Ça s'appelle Coup de peigne, c'est sur AB1, 20h40, de Paddy Breitner, avec Alan Rickman, Natasha Richardson et Bill Nighy. Donc ça peut le faire hein, quand même. Histoire d'un type qui dit à son père de reprendre le coup de ciseau pour participer à une compétition de coiffeur et tout, parce que c'est le meilleur coiffeur du monde. Et ça, j'ai déjà vu ce film en version française avec Jean-Yann, c'était vraiment pas mal hein. C'était vraiment très sympa quoi. Toujours jeudi sur TCM à 20h40, Les Glandeurs de Kevin Smith avec Shannen Doherty, Jeremy London, Jason Lee et Claire Forlani. C'est le film qu'il a fait juste après Clarks. Il y a également, c'est la soirée ado donc, et après bah, un film qui est bon ado également, enfin rien à voir avec le Kevin Smith, c'est Graines de violence, Blackboard Jungle en version originale, Richard Brooks 55, Glenn Ford, Anne Francis, Sidney Poitier et le générique de fin. Le générique de fin.
Je vois plus. Le générique de fin.
Bill Haley, les Comets, bien entendu. Rock Around the Clock.
Oh mince.
Eh oui. Oh oui. Eh oui. Eh oui. Sur Cinéfix, toujours jeudi prochain, 21h, Je suis un monstre de Stephen Wicks avec Christopher Lee et Peter Cushing. Hein, le. On va dire que c'est la fin de la mer. Enfin bon, ça se laisse encore bien regarder. Par contre, sur Orange Ciné Géant, jeudi prochain, un chef-d'œuvre du cinéma, Gilda de Charles Vidor avec Rita Hayworth, Glenn Ford et George McCready. Vendredi, TP Star vous propose le bon petit polar western. On va dire c'est un polar, mais c'est plus une ambiance western. Way of the Gun. Le scénariste de Usual Suspect avec Brian Singer, Christopher McQuarrie avec Benicio Del Toro, Ryan Phillippe, Juliette Lewis, James Caan, il est très bien. Sur RTL9, toujours le vendredi soir, en deuxième partie de soirée, 22h20, c'est Asia Cinéma avec The Twin Effects, Dante Lam, Donnie Yen 2003, Ekin Cheng, Charlene Choi, Anthony Wong, Edison Cheng. Voilà, c'est vendredi prochain, 22h20 sur RTL9, The Twin Effects. Sur Ciné Cinéma Star, vendredi prochain, une soirée spéciale David Bowie avec deux films. Le premier excellent, c'est L'homme qui venait d'ailleurs à 21h de Nick Rugg avec entre autres Bowie, Rip Torn et Buck Henry. Et à 23h, un bon film aussi, c'est Les Prédateurs de Tony Scott avec Catherine Deneuve et Susan Sarandon. Et bien entendu, David Bowie dans le rôle du vampire. Et sur Polar, eh bien c'est ce que tu regarderas vendredi prochain car c'est une soirée spéciale Dick Tracy avec... À 21h, le dilemme de Dick Tracy est le troisième Dick Tracy de la bande, à savoir interprété par Ralph Byrd, toujours John Rawlins, hein, 47. Et ensuite, eh ben, on diffuse ceux qui sont déjà passés. À 22h, Dick Tracy contre Q-Ball, avec Morgan Conway dans le rôle titre. Et à 23h05, Dick Tracy contre Gang, avec Boris Karloff dans le rôle titre. Bien entendu, John Rawlins, qui nous a fait, quand même, en 40, The Green Hornet, He Rides Twice Again. Déjà en 40, tu vois, le Green Hornet qui nous a fait ensuite La Voix de la Terreur en 42, qui est le premier Sherlock Holmes dans la série Les Céréales, hein, qui était tourné par la Universal. Ensuite, il nous a fait des westerns, Arizona Rangers. Et ensuite, il a fait une fixation sur les rivières parce qu'il a fait Massacre River en 49, Rogue River en 50. Il s'est dit, ouais, je vais arrêter
Que des rivières méchantes.
Fort Défiance en 51. Puis il revient avec Shark River en 53. et il termine avec la rivière où elle coule, bah, dans le lagon, Lost Lagoon en 58, John Rawlins donc, vendredi toujours, et on termine avec, sur CinéFX, une soirée Kevin Connor avec tout d'abord Centre-Terre, 7ème continent de 76 avec Doug McClure et Peter Cushing, puis à 22h30 les 7 cités d'Atlantis, puis à 00h05 le 6ème continent qui normalement
aurait dû être avant
le 7ème continent.
CinéFX, hein, c'est AB.
Sur Action, bah, c'est toujours le western italien de Umberto Lenzi, La Malle de San Antonio, aïe aïe aïe, à 21h avec John Ireland, Peter Lee, Lawrence et Gloria Osasuna. Et sinon sur MCM, vendredi prochain, vous pouvez assister à 20h35 aux funérailles de Michael Jackson. Elle est pas belle la vie.
Ouais,
tout,
ils refont une intégrale, j'ai vu sur W9 qu'il y a que du Michael Jackson. Enfin,
bon, ça va quoi, c'est pas mal. Et par contre, j'ai complètement voulu vous parler du téléfilm de la semaine. C'est un téléfilm israélien qui sera diffusé sur Arte vendredi prochain à 20h35. Ça s'appelle La Dette. C'est réalisé par Asaf Bernstein en 2007 avec Gila Almagor, Edgar Zeige et Itai Tiran. Alors le pitch, c'est pas compliqué. En 1999, en Ukraine, c'est un vieil homme malade qui veut confesser ses crimes et il prétend être Max Reiner, le chirurgien de Treblinka. Le problème, c'est que en 1964, trois agents du Mossad avaient pisté Max Reiner pour le kidnapper et avaient déclaré qu'il s'était suicidé. Et le film a beaucoup fait parler de lui et tout, parce que bon, le film raconte bien entendu à l'aide de flashbacks et de récits et contre
la quête
contradictoires des... et tout ce qui s'est passé et tout. On se rappelle que Eichmann a été capturé de la même façon, hein, il a été extradé, on va dire, du Brésil, je crois qu'il était au Brésil ou un petit peu plus bas au Paraguay, ah, et puis bon, hop, on l'avait ramené en Israël pour se faire juger. Et donc ça a tellement bien marché et ça a causé vraiment, ça a beaucoup fait causer que un remake hollywoodien est prévu cette année avec Helen Mirren et Sam Worthington. Ouais mon gars, c'est comme ça. Et vite fait un mot sur un petit téléfilm qui peut être sympa parce que c'est la reconstitution d'une époque
13h53,
musicale,
hein.
The Beach Boys, c'est sur TVA mercredi prochain à 20h35 avec Frederick Weller, Kevin Dunn, Nick Stabile et Ryan Northcutt.
Et ben c'est pas trop tôt parce que ma foi du sport, il va avoir beaucoup de choses à dire sur la Coupe du monde de foot. Mais Thomas, peux-tu faire un résumé pour ceux qui nous ont écoutés en FM ou sur le stream et qui sont arrivés en plein milieu?
Oui, aujourd'hui il y avait des vuvuzelas, des gars en collant hermétique, une cape rouge de la campagne contre un virus, des Mexicains, des machettes et des nains, des petits êtres qui giclent, du meurtre, des géants, du Danny Trejo, des desperados, du Michu Mansombrero, Mexico, des envahisseurs ninja, du dénudé appétissant et naturel, et au milieu coulent des rivières.
Nom d'une rouste, vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, retrouver les chroniques écrites, comme par exemple Océan, Ainsi va la vie, Preacher, Transmétropolitain et tout plein d'autres. Pour cela, il suffit d'aller sur supplementweekend.fr. Vous pouvez même poser des questions, faire vos suggestions sur le site web supplementweekend.fr. Sans accent ni tiré. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Jeudi prochain, nous serons probablement pour les 10 ans du musée des abattoirs, aussi en direct sur FMR. Et dans le prochain épisode, Hokusai, sa vague et ses disciples sont Japan Expo. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Voilà, et ceci dit, eh ben, c'est un plaisir de savoir que vous êtes un sacré nombre. Si vous voulez voir le comptage Google, vous avez plus de 1800 à nous écouter. Voilà. À mon avis, c'est une erreur de décompte, c'est pas possible autrement. Ciao, bye bye. See you soon. De suite, c'est du sport. Et je fuis.
Ya llegaron los vaqueros al coleadero.
Ya llegaron los vaqueros al coleadero.
Rayando con sus caballos polvaderas en el suelo. Luciendo sus galoneados y bien plantados trajes de cuero. Ya llegaron los vaqueros al coleadero.
Ya llegaron los vaqueros.
Va a empezar el coleadero.
Los novillos están bramando.
Los caballos relinchando. Novillo pinto.